Du péché. Il a placé mes pieds sur le rocher pour demeurer. Il a mis un nouveau chant dans mon âme aujourd'hui, un chant d'adoration. Alléluia. Mon cœur était dans la détresse devant le regard de Dieu. Et mes péchés m'ont tiré dans le puits. J'ai crié au Seigneur du plus profond de ce de la boue, et il m'a amené à la lumière du jour. Il m'a sorti de la boue du péché. Il a placé mes pieds sur le rocher pour demeurer. Il a mis un chant dans mon âme aujourd'hui, un chant d'adoration. Alléluia. Et il m'a placé sur ce grand rocher à côté de lui. Mes pas étaient établis et à côté de lui, je vais demeurer. Et je vais me tenir avec sa grâce jusqu'à ce que je reçoive ma couronne. Je vais chanter de sa grande miséricorde. Je vais l'adorer jusqu'à toutes ses bénédictions. Je vais voir. Il m'a sorti de la boue du péché. Il a placé mes pieds sur le rocher pour demeurer. Il a mis un chant dans mon âme aujourd'hui, un chant d'adoration. Il m'a sorti de la boue du péché. Il m'a placé mes pieds sur le rocher pour demeurer. Il a mis un chant dans mon cœur aujourd'hui, un chant d'adoration. Alléluia. T'appelons seulement des mains maintenant. Est-ce qu'il vous a sorti? Merci, Seigneur. Il m'a sorti de la boue du péché. Il a placé mes pieds sur le rocher pour demeurer. Il a mis un chant dans mon âme aujourd'hui. Merci, Seigneur. Il m'a placé sur ce grand rocher à côté de lui. Mes pas étaient établis et là je vais demeurer. Et je vais me tenir par sa grâce. Il m'a sorti de la boue du péché. Il a placé mes pas pour demeurer. Tapons-le des mains maintenant. Béni soit le Seigneur. Il m'a sorti de la boue. Il a placé mes pieds sur le rocher pour demeurer. Il a mis un chant dans mon âme aujourd'hui. Un chant d'adoration. Béni soit le Seigneur. N'êtes-vous pas heureux qu'il vous ait sorti? Merci, Seigneur. Comment l'a-t-il fait? Par un prophète, un signe et la colonne de feu. Amen. C'est ce que nous avons aujourd'hui. Ce que nous avons est la colonne de feu. Dirigeant à nouveau l'Église de Dieu. Nous ramenons la Bible. Nous éloignant de tout le péché, montrant le Sauveur ressuscité, se montrant vivants à nouveau. Ce que nous avons est la colonne de feu, brûlant encore dans nos cœurs. Ce que nous avons est la colonne de feu, vous croyez cela? Dirigeant à nouveau l'Église de Dieu, nous ramenant la Bible, nous menant loin de tout péché, montrant le Sauveur ressuscité, se montrant vivants à nouveau. Ce que nous avons est la colonne de feu, brûlant encore dans nos cœurs. Tapons-le des mains. Vous croyez cela? Amen. La conduite du Saint-Esprit pour son épouse aujourd'hui. Montrant le Sauveur ressuscité, se montrant vivants encore. Tous ensemble maintenant. Ce que nous avons est la colonne de feu. Dirigeons à nouveau l'Église de Dieu. Nous ramenons à la Bible. Nous menons loin de tout péché. montrant le Sauveur ressuscité, se montrant vivants à nouveau. Ce que nous avons à la colonne de feu, brûlant encore dans nos cœurs. Béni soit le Seigneur. C'est ce que ce message représente pour nous. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. C'est certainement un honneur d'être avec vous ce soir, cet après-midi, de venir à la maison du Seigneur et de l'adorer et d'entendre sa parole, d'entendre sa voix. Nous souhaitons la bienvenue à chacun d'entre vous qui écoute sur la ligne téléphonique à travers le monde entier, alors que nous sommes unis sous ce message et ce messager des sept sceaux, cet ange, la voix de Dieu pour vous. Amen. Nous ennuyons de Frère Joseph ce matin. Merci.
And Brother Joseph.
Et Frère Joseph.
We are praying for you.
Nous prions pour toi.
That God
que Dieu
will grant to you
va t'accorder
exceedingly abundantly
extrêmement au-dessus de tout ce que tu pourrais demander ou penser. Et je veux seulement dire, en tant que membre de l'épouse du Seigneur Jésus-Christ, peut-être que je peux seulement juste me tenir ici et parler pour toute l'épouse. Si quelqu'un n'aime pas cela, pardonnez-moi. Mais je veux seulement parler pour l'épouse et nous voulons dire que nous remercions Dieu pour la conduite qu'il a placée dans Frère Joseph pour l'épouse de ces derniers jours. Merci Seigneur pour Frère Joseph. Je pourrais probablement dire beaucoup de mots et beaucoup de choses qui viennent à mon esprit, qui sont dans mon cœur. Et ça ne voudrait rien dire. Alors, le mieux que je peux faire, et je crois que seulement Frère Branham qui pourrait dire ça de mieux, et notre pasteur pour cette génération, Frère Branham a dit ceci. Citation. Je dois quitter ce monde de ces jours, mais je veux le quitter avec un cœur juste, en faisant de mon mieux pour le royaume de Dieu, et en travaillant. C'est de cette façon que je désire partir. Que Dieu m'aide et place le petit Joseph, mon petit garçon ici, à ma place pour continuer le ministère si Jésus tarde. Fin de la citation. C'est le mieux que je puisse dire.
Thank you.
Merci. Que le Seigneur vous bénisse.
This week.
Cette semaine.
Is a week that we have commemorated,
est une semaine que nous avons de souvenir.
A great day.
On se rappelle un grand jour pour l'épouse du Seigneur Jésus-Christ.
Every day.
Chaque jour est un grand jour pour l'épouse. Mais cette semaine était un souvenir. C'était le 24 janvier au Texas, au Coliseum, lorsque un défi a été donné au prophète de défier l'authenticité de ce qu'il avait dit, que Dieu avait promis de guérir par la guérison divine. Et Dieu lui a permis lui-même et lui est apparu au-dessus de la tête de son prophète sous la forme d'une colonne de feu, confirmant qu'il est la bouche de Dieu pour cette génération.
Amen.
Béni soit le Seigneur. Aujourd'hui, l'épouse du Seigneur Jésus-Christ, elle suit cette même colonne de feu. Et nous savons, sans doute, sans l'ombre de doute, sans controverse, que ce message est la voix de Dieu pour nous. Et comme Frère Branham a dit, je suis la voix de Dieu pour vous. Ça règle la question pour moi. Ça règle la question.
Amen.
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 Ça vaut la peine de se lever debout. Béni soit le nom du Seigneur. Il y a seulement un endroit pour entendre la voix de Dieu. Dieu l'a fait d'une telle façon qu'il y a un seul endroit où nous pouvons savoir pour sans question, sans l'ombre de doute, que c'est absolument la voix de Dieu qui nous parle. Il y a seulement un endroit, et c'est lorsque vous appuyez sur le bouton « Jouer ». Press play. C'est tout.
Amen.
Thank you, Lord. Merci, Seigneur.
We know that the anointing
Nous savons que l'onction est sur les bandes.
My sheep hear my voice.
Mes brebis entendent ma voix et un étranger, ils ne suivront point. Lorsque je foie aujourd'hui, il n'a pas d'importance, mais lorsque cela joue, lorsque nous appuyons sur le bouton jouer, cela représente tout pour l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Parce que ça, c'est la seule chose qui va amener l'épouse à la vie. C'est la vie éternelle. C'est la parole de vie éternelle. Vous n'avez pas besoin de... C'est pur et sans tache. La voix de Dieu a apporté la vie à un homme mort. Il y a seulement une façon d'apporter la vie, et c'est par en entendant cette voix sur les bandes. Il a dit, Lazare, lève-toi. C'est la seule chose qui va amener l'épouse à la vie, c'est cette voix de Dieu en ces jours. Toutes les questions que vous avez sont sur les bandes. Toutes les réponses que vous avez besoin sont sur les bandes. Toutes les réponses que vous avez besoin sont sur les bandes. Avez-vous reçu la révélation? Comment allez-vous la recevoir? Où allez-vous aller la chercher? Vous pouvez courir ici, là-bas. Vous perdez beaucoup d'énergie et de temps, probablement. Car la seule chose que vous avez à faire, c'est d'appuyer sur « Jouer ». Et la révélation est juste là. C'est le seul moyen de la recevoir. C'est en entendant cette voix sur les bandes. C'est le programme de Dieu. C'est un message d'un seul homme. Amen. Conduit par une colonne de feu. Amen. Je n'ai pas de montre ici, mais j'ai perdu le temps qui reste. Mais béni soit le Seigneur, mais je veux vous partager une citation du message Hébreux chapitre 5 et 6. Frère Branham a dit cette citation. Nous avons vu que la colonne de feu a conduit les enfants d'Israël. Et quand elle a été faite chair, ici sur terre, un jour, nous l'entendons qui dit, il a déclaré qu'il était la colonne de feu. Ils ont dit, tu dis que tu es plus grand que notre père Abraham. Il a dit, avant qu'Abraham était, je fus. Qui était le « Je suis » la colonne de feu dans le buisson ardent, un monument perpétuel pour toutes les générations, pas seulement cette génération, mais cette génération, cette même colonne de feu. Et nous sommes reconnaissants que nous ayons cette photo ici, qu'il n'a pas changé, qu'il est immortel, éternel, immortel. Il fait la même chose qu'il faisait avant. Comment nous sommes reconnaissants et...
Amen.
Un monument perpétuel, pas seulement pour cette génération, mais pour cette génération ici. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.
You know, when you read
vous savez, lorsque vous lisez le livre de l'Apocalypse, je ne prendrai pas le temps de toutes les sortir, les citations. Vous pouvez le regarder dans Révélation chapitre 2, chapitre 3. Mais ça se répète continuellement au moins 7 fois. Cela dit, celui qui a, ceux qui peuvent entendre, laissez-le entendre ce que l'Esprit dit à l'Église. Ça le dit à la fin de chaque chaque âge de l'Église. Et je pensais seulement comment l'épouse aujourd'hui peut être capable d'entendre ce que l'Esprit dit aux Églises. Maintenant, Frère Branham nous a dit de retourner au début du livre et de découvrir qui cela est. Je pourrais vous faire une liste. Révélation 3:15 aux anges de l'église de Laodicée, écrivez ces choses. C'était pas écrit ou adressé à quiconque d'autre, mais aux anges. Révélation 10 dit que le septième ange a révélé toutes ces choses à nous. Frère Branham a dit dans ce message, être conduit, Dieu ne traite pas avec des organisations. Il ne traite pas avec des groupes. Il traite avec des individus. C'est vrai, toujours. Pas dans des groupes, des individus. Une seule personne. Dans les derniers jours, il a dit, je me tiens à la porte et je frappe. Et si quelqu'un, pas si un groupe, si quelqu'un entend ma voix, et qu'il m'écoute, j'entrerai chez lui et je souperai. Vous voyez si quelqu'un peut s'entendre. Maintenant, comment ce microphone peut produire ma voix quelque part là-bas sans que ce soit ici? Je peux produire ça avec toute ma pensée, mais ça ne produira rien. Et si la parole de Dieu était en vous avant la fondation du monde, alors mes brebis entendent ma voix. Ils connaissent mon temps. Un étranger, ils ne suivront pas. Vous savez l'heure? Le même message, être conduit, remarquez, David pensait que tout allait bien, il a consulté tous ses gens, et tous, ils se sont mis à danser, à jubiler, à pousser des cris, ils ont accompli toutes leurs pratiques religieuses, mais néanmoins, ce n'était pas la volonté de Dieu d'aller là-bas et de ramener la parole de Dieu à la maison de Dieu. Mais vous voyez, Dieu, toujours, dans tous les âges, a un seul moyen à travers lequel il agit. Sa première décision est sa seule décision. Parce qu'il est parfait dans ses décisions. Il ne fait jamais rien sans l'avoir d'abord révélé à ses serviteurs les prophètes. C'est exact. C'est pourquoi que l'âge de l'Église dans lequel nous vivons, il n'y a pas d'Église, pas de méthodiste, pas de pentecôtiste, rien d'autre, ne pourront jamais mettre cette Église dans l'épouse.
It'll have to be
ça devrait être
the answering of Malachi
la réponse de Malachi 4.
Amen.
Amen. Car Dieu a envoyé ce prophète pour être révélé. Car c'est le seul moyen
que cette église
et Dieu a toujours depuis les prophètes. C'est le seul moyen qu'il peut le faire. Excusez-moi. Voulez-vous savoir ce que l'Esprit dit aux églises? Écoutez les bandes. Vous avez une révélation? Écoutez les bandes. Vous voulez être nourri? Écoutez les bandes. Vous voulez être son épouse? Écoutez les bandes. Vous voulez être prêt pour la résurrection et l'enlèvement pour être complètement restauré? Écoutez les bandes. Vous voulez être guéri? Écoutez les bandes. Vous voulez être sauvé? Écoutez les bandes. Écoutez les bandes. C'est la voix de Dieu pour vous. Si vous êtes une partie de son épouse, c'est la raison pour laquelle nous sommes rassemblés aujourd'hui, pour écouter la voix nous parler. C'est la plus grande chose, c'est la seule chose qui peut préparer l'épouse. Il y a seulement une seule chose, et c'est ce message. Voulez-vous suivre la conduite du Saint-Esprit? Écoutez les bandes. C'est le seul moyen que vous allez savoir pour être certain. C'est le Saint-Esprit. Écoutez ces bandes. Pour le connaître, pour être certain. Vous souvenez-vous de cette vision que Frère Branham a eue? Lorsqu'il a ouvert cette pyramide, vous vous souvenez ce qu'il a dit à ses frères? Vous regardez à cela. Vous regardez à cela. Mais qu'a dit Frère Branham après? Il leur a dit quoi faire? Il est allé à l'ouest. Il est allé à l'ouest. Mais il a dit, vous les frères, regardez à cela. Après qu'ils soient partis à l'ouest, ils se sont demandé où est-ce que Frère Branham était parti. Nous voulons savoir où il est allé. Après un certain temps qu'ils soient partis dans cette direction, ils sont allés dans toutes ces directions. J'interprète rien, c'est tout dans le message maintenant. Ils ont commencé à aller dans différentes directions. Mais Frère Branham, allez-y, très peu sont restés et qui sont demeurés, qui ont regardé ce qu'il leur avait dit de regarder. Mais il y a des gens qui sont appelés l'épouse Seigneur Jésus-Christ qui restent sur place et qui ne vont pas nulle part d'autre.
Amen.
Que le Seigneur vous bénisse. Comme Élisée a dit à Élisée, je ne te laisse pas sortir de mon champ de vision. Je reste avec toi. Je veux rester avec ce message. Je veux rester avec le message. Vous vous souvenez ce que Frère Branham a dit lorsqu'il a été transporté là, de l'autre côté? Vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, nous avons dit, si tu n'aurais pas été, nous ne serions pas ici. Laissez-moi juste lire une citation. Dans le message, le roi rejeté, Frère Branham dit, j'ai regardé autour de moi et j'ai pensé, mais je ne saisis pas. J'ai dit, où est Jésus? J'ai tellement envie de le voir. Ils ont dit, il est juste un peu plus haut, là, dans cette direction. Ils ont dit, un jour, il viendra à toi. Voyez, tu as été envoyé comme chef. Alors Dieu viendra, et quand il viendra, d'abord, il te jugera selon ce que tu leur as enseigné. S'ils entrent ou pas, en dépendra. Nous entrerons sur ce que tu aura enseigné. J'ai dit, oh, je suis content. Est-ce qu'il devra être jugé comme ça? Est-ce que Pierre devra être jugé comme ça? Oui. J'ai dit, alors j'ai prêché chaque parole qu'ils ont prêchée. Je n'ai jamais dévié, ni d'un côté ni de l'autre. Ils baptisaient au nom de Jésus-Christ et j'ai fait de même. Ils enseignaient le baptême du Saint-Esprit et j'ai fait de même. Tout ce qu'ils ont enseigné, moi aussi je l'ai enseigné. Et ces gens-là se sont écriés, ils ont dit, nous le savons. Et nous savons
Amen. We know that. And we know we're going
qu'un jour, with you someday. Nous retournerons sur cette terre avec toi. Ils ont dit, Jésus viendra et tu seras jugé selon la parole que tu nous as prêchée. Après, si tu acceptes à ce moment-là, et tu le seras, ils ont dit, après, tu nous présenteras à lui comme les trophées de ton ministère. Ils ont dit, tu nous conduiras vers lui et tous ensemble, nous retournerons sur terre pour y vivre pour toujours. Si cela ne vous excite pas, alors vous ne pouvez pas être excité, mais cela crée de l'excitation en moi. Béni soit le nom du Seigneur. Si vous auriez où ce que frère Branham.
We'll go in according to what you taught us.
Nous allons aller de l'avant avec ce que tu nous as enseigné. Nous savons qu'il a prêché chaque parole. Il n'a jamais dévié sur aucun mot. Il a l'ainsi dit le Seigneur.
He'll be judged for what he said.
Et nous serons jugés selon ce qu'il a dit. Et si nous suivons ce message à la ligne, au point, nous allons. Vous êtes son épouse. Vous. Vous êtes les trophées de son ministère. Je suis un converti de frère William Marion Branham.
We are his converts.
Nous sommes ses convertis.
He will guide us to him.
Il va nous guider à lui. Et il va dire, voici une épouse vierge. Voici l'agneau de Dieu.
If you will hear these tapes,
si vous entendez ces bandes,
obey these tapes,
obéissez à ces bandes.
Your heart will be restored.
Votre cœur sera restauré complètement et complètement.
For the resurrection and
complètement
the rapture
prêt pour la résurrection et l'enlèvement de cette épouse. Il n'y a aucun doute.
Because there's no doubts.
Car il n'y a pas de doute.
Just one more thing.
Juste encore une chose.
Just think of this great week.
Pensez seulement à cette grande semaine que nous voulons nous souvenir de ce grand message. Je vais vous le lire de ce message. Il a dit,
now that life.
Cette vie est présente ce soir. C'est exact. Le Saint-Esprit est ici, ce qui est Christ sous la forme d'esprit. Son esprit, l'onction est ici. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez. Car je serai en vous et même en vous jusqu'à la fin du monde. Jésus seul peut vous guider à cette vie éternelle. Il n'y a pas d'église, aucune église, aucune dénomination, aucun prédicateur, aucun prêtre. Non, rien d'autre ne peut vous y guider. Vous devez être guidé par lui. Lui seul qui peut vous guider. L'aimez-vous aujourd'hui? Suivez-vous cette colonne de feu? Alors, il est Seigneur.
Il est Seigneur.
Pensez seulement à lui alors que nous levons la main et l'adorons.
Et il est Seigneur. Chaque genou fléchira, chaque langue confessera que Jésus est Seigneur.
Chantons-la encore une fois.
Il est Seigneur. Il est Seigneur. Il est ressuscité le mort. Et il est Seigneur. confessera.
Every tongue confess.
Jesus is Savior.
Inclinons la tête maintenant.
Si vous avez
une requête sur votre cœur, faites-la maintenant connaître à lui. Peu importe où vous êtes, il est là pour en répondre. Que Frère Jérôme puisse avancer maintenant alors que nous sommes en prière. Notre tendre Père Céleste, c'est certainement, Seigneur, notre témoignage aujourd'hui, car il est Seigneur et qu'il est ressuscité des morts, et que chaque genou va s'incliner et que chaque langue confessera. Et Seigneur, nous sommes tellement reconnaissants pour ce message de l'heure qui prouve, qui confirme qu'il y a une tombe vide à Jérusalem aujourd'hui. Et alors que tu laisses tes enfants, les enfants d'Israël, sortir d'Égypte par une colonne de feu. En est-il de même en est-il aujourd'hui avec cette colonne de feu qui nous conduit en dehors de ce pays sur les ailes d'un aigle qui nous pointe à la parole à nouveau, Seigneur. Comment reconnaissant nous sommes, Seigneur, que, Seigneur, à ce service aujourd'hui, que nous tenons tel que le jeune homme riche, nous avons une décision à faire devant nous, Seigneur. Et nous sommes tellement reconnaissants dans notre cœur, Seigneur, de prendre ce chemin que Moïse a pris et que nous considérons la misère de Christ, meilleur que toutes les richesses du monde. Cette parole de ce jour, cette voix qui est pour nous la parole de Dieu. Seigneur, nous voulons seulement te suivre de tout notre cœur. Seigneur, nous considérons être la plus
grande.
De marcher pour toi, Seigneur, le grand Créateur, comment reconnaissant nous sommes, Seigneur, que nous savons que, Seigneur, tu te tiens à la porte, cogne à la porte, Seigneur, pour toi, Seigneur, de rentrer à l'intérieur. Tu as mis une condition d'entendre ta voix, Seigneur. Si nous entendons ta voix, Seigneur, tu vas venir et souper avec nous, Seigneur. Seigneur, tu n'as pas besoin de cogner ici, Seigneur. Nos portes sont grandes ouvertes, Seigneur. Elles sont grandes ouvertes à ta voix, Seigneur. Seigneur, nous ne t'invitons pas seulement à venir dans ce bâtiment, Seigneur, mais dans tous les cœurs, Seigneur. Nos âmes, Seigneur, notre esprit, Seigneur. Tout ce que nous sommes, Seigneur. Nous voulons seulement te souhaiter la bienvenue, Seigneur, et te souhaiter la bienvenue, Seigneur, et avoir l'onction. Seigneur, nous allons tomber à tes pieds, Seigneur Jésus. Nous voulons faire tout ce que nous voulons faire pour te faire sentir le bienvenu, Seigneur. Il y a un temps que tu as visité la maison de Simon, Seigneur. Il n'a pas lavé tes pieds, Seigneur. Et il ne t'a pas souhaité la bienvenue, Seigneur, avec les pieds sales, Seigneur. Mais il y avait cette petite femme vile, Seigneur, qui et rapidement, Seigneur, elle est venue à tes pieds, Seigneur, elle a oint tes pieds avec ses larmes, Seigneur, elle a lavé, Seigneur, elle a oint, Seigneur, la parole, Seigneur. Lorsque la parole était oint, Seigneur, elle est rentrée en action, Seigneur, tu l'as partagée. Tu as pardonné ses péchés et l'épouse, Seigneur, se tient sur ta parole, Seigneur. Tu agis de la même façon, Seigneur, tu vois ta parole, Seigneur. Et nous avons confiance, Seigneur, que tu vas nous pardonner, Seigneur, comme tu l'as fait pour elle, Seigneur. Nous sommes reconnaissants pour cette opportunité, Seigneur. Seigneur, nous amenons Frère Joseph en prière, Seigneur. Dans notre cœur, nous nous ennuyons de lui, Seigneur, et nous sommes aussi reconnaissants dans nos cœurs, Seigneur, qu'il puisse reposer, Seigneur, et qu'il puisse en parler avec toi, Seigneur, et trouver la conduite, Seigneur, qu'il a confiance en nous, Seigneur, que nous allons continuer, Seigneur, dans l'ordre de ton esprit, Seigneur, que tu ne quitteras pas ce pupitre, Seigneur, qu'il a cette confiance en nous, Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, nous allons de l'avant, Seigneur, et nous voulons seulement accepter chaque parole que ton prophète a dit, et nous remettons ce service entre tes mains, Seigneur. Nous t'aimons de tout notre cœur. Nous le remettons entre tes mains dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.
is Lord.
Yes, he is Seigneur. Il est ressuscité des morts. Et il est Seigneur. Chaque genou fléchira, chaque langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur.
Amen. Praise the name of the Lord.
Bénissons le nom du Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Je suis excité d'être ici cet après-midi. Chacun d'entre vous, de rentrer dans le message et qui s'en vient. Combien de fois nous l'avons écouté, il y a toujours plus qui se révèle à nous. Je suis tellement reconnaissant de faire partie de cela avec chacun d'entre vous. Et nous allons chanter. Et il est Seigneur, ressuscité des morts, et ce sera un grand jour lorsque nous allons enfin voir son visage. Amen. Quel beau jour ce sera. Chantons maintenant ce chant tous ensemble. Il vient un jour où les cœurs brisés seront terminés. Plus de nuages dans le ciel. Plus de larmes pour assombrir l'œil. Tout sera paix pour toujours sur ce joyeux rivage doré. Quel beau jour, quel beau jour ce sera. Quel beau jour ce sera. Sauve, je verrai Jésus, je contemplerai, car dans sa grâce il me sauva pour traverser le Jourdain. Il me prendra par la main. Oh, quel beau jour! Quel beau jour ce sera. Il n'y aura pas de chagrin là-bas, plus de fardeau à supporter, plus de maladie, pas de douleur, plus d'au revoir là-bas. Et pour toujours, je serai avec lui qui est mort pour moi. Oh, quel beau jour, quel beau jour ce sera. Tendre Père Céleste, quelle présence il y a ici ce soir. Oui, Seigneur, tu es avec nous, Seigneur, au sein de ton peuple. Seigneur, nous prions seulement que tu touches chacun d'entre nous, Seigneur, que tu ouvres notre cœur pour recevoir cette parole en ce jour. Quel privilège, Seigneur, nous préparons à entendre cette voix pour nous, Seigneur. Nous sommes reconnaissants pour celle-ci, Seigneur. Nous te remercions d'avoir cette révélation que tu nous as réunis, Seigneur, dans cette place. Ensemble, Seigneur, ton peuple est dans une grande expectative, Seigneur. Nous t'aimons. Et Seigneur, nous prions seulement que tu sois avec nous maintenant, Seigneur. Seigneur, bénis ces dîmes et ces offrandes, Seigneur, alors que nous les remettons entre tes mains dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Oh, what a day.
Quel beau jour ce sera. Dans mon sauve, je verrai Jésus, je contemplerai, car dans sa grâce, il me sauva
pour traverser le Jourdain. Il me prendra par la main. Quel beau jour, quel beau jour ce sera.
Chantons encore une fois.
Quel beau jour ce sera quand mon sauveur je verrai. Jésus, je contemplerai. Traverser le Jourdain, il me prendra par la main. Quel beau jour, quel beau jour ce sera.
I'm pressing on the upward way.
Je m'empresse sur le chemin, je m'approche encore de ton trône. Priant de couper tous les liens. Seigneur, établis-moi plus haut.
Lord, lift me monter up et me tenir par la foi où je serai libre, que je découvre un jour nouveau. Seigneur, établis-moi plus haut.
Mon cœur n'a pas désir de rester où les doutes s'élèvent. Et la peur.
Oh, some may dwell where these abound.
Je veux demeurer là où
ils abondent.
Ma prière est de monter plus haut.
Lord, lift me up.
Fais-moi monter
et me tenir par la foi où je serai libre, que je découvre. Seigneur, établis-moi plus haut.
I want to scale the utmost high.
Je veux monter,
atteindre
l'ultime hauteur et entrevoir ta gloire suprême. Oh, je te prie que de rendre par ton amour, tu me soutiens. Fais-moi monter et me tenir par la foi où je serai libre. Fais-moi monter et me tenir par la foi où je serai libre, que je découvre un jour nouveau. Seigneur, établis-moi plus haut.
Remplis-moi
chaque jour. Laisse-moi toujours marcher, mais de joie à tes côtés. Remplis-moi chaque jour d'amour. Dans le sentier étroit que tu as toi-même passé pour moi. Partout donnant la joie à ton peuple ici-bas. Remplis-moi chaque jour d'amour. Remplis-moi chaque jour d'amour. Remplis mon cœur de ton esprit. Oh, laisse-moi
Laisse-moi toujours marcher près de toi, à tes côtés. Remplis-moi chaque jour d'amour.
Garde-moi près de toi, mon Seigneur et mon roi.
Je veux m'éloigner de toi. C'est toi qui tiens ma main pour tous mes lendemains. Remplis-moi chaque jour d'amour. Remplis-moi chaque jour d'amour. Remplis mon cœur et ton esprit. Oh, laisse-moi toujours marcher, rue de joie à tes côtés. Remplis-moi chaque jour d'amour.
Seigneur, je partirai pour aller demeurer là-bas dans la céleste cité.
Oh, laisse-moi chanter, Seigneur, encore ce doux refrain. Remplis-moi chaque jour d'amour. Remplis-moi chaque jour d'amour. Remplis mon cœur de ton esprit. Oh, laisse-moi toujours marcher plein de joie à tes côtés. Remplis-moi chaque jour d'amour.
Tapons-le maintenant des mains. Troisième couplet. Bientôt je partirai pour aller demeurer là-haut dans la céleste cité.
Oh, laisse-moi chanter, Seigneur, encore ce doux refrain. Remplis-moi chaque jour d'amour. Remplis-moi chaque jour d'amour. Remplis mon cœur de ton esprit.
Oh, laisse-moi toujours marcher plein de joie à tes côtés.
Remplis-moi chaque jour d'amour.
Béni soit le nom du Seigneur. C'est mon désir, c'est qu'il remplisse, qu'il me remplisse d'amour tous les jours. Nous nous rapprochons chaque jour. Et je sais que pour moi, je veux continuer à m'accrocher à lui à chaque jour. Peu importe où il me conduit, je veux aller là où il me conduit. Combien apprennent à s'appuyer sur lui chaque jour? J'apprends à m'appuyer. J'apprends à m'appuyer. J'apprends à m'appuyer sur Jésus. Je trouve plus de puissance, plus que je n'ai jamais rêvé. J'apprends à m'appuyer sur Jésus. J'apprends à m'appuyer. J'apprends à m'appuyer. J'apprends à m'appuyer sur Jésus. Je trouve plus de puissance, plus que je n'ai jamais rêvé. J'apprends à m'appuyer sur Jésus. Là où il me conduit, je le suivrai. Là où il me conduit, je le suivrai.
I'll go
Je vais aller avec lui. Avec lui. Tout le chemin. Là où il me conduit, je le suivrai. Là où il me conduit, je le suivrai. Je vais aller avec lui, avec lui, jusqu'au bout. Humons-le doucement. Va me donner la grâce et la gloire. Avec lui, avec lui, jusqu'au bout. Amen. Béni soit le Seigneur. Sa présence est tellement parfaite. J'aimerais lire cette citation avant que nous chantions « Crois seulement ». Frère Branham a dit, « Vous êtes ici parce que votre nom a été placé dans le livre de vie de l'agneau. Avant même qu'il y ait une fondation du monde, c'est tout à fait vrai. Vous êtes un gène spirituel qui vient de votre Père Céleste, une partie de la parole de Dieu. S'il en était ainsi, comme je l'ai dit, alors vous étiez avec Jésus quand il était ici, parce qu'il était la parole. Vous avez souffert avec lui. Vous êtes mort avec lui. Vous avez été enseveli avec lui. Vous êtes ressuscité avec lui. Et maintenant, vous êtes assis dans les lieux célestes en lui. Fin de la citation. Béni soit le Seigneur. Vous êtes venu à sa table. Le Seigneur vous a conduit ici. Vous êtes prêts maintenant. C'est le plus grand nom qui a jamais été sur terre. Et nous avons l'honneur et le privilège de l'entendre. Merci, Seigneur. Et nous le croyons de tout notre cœur. Amen.
Oh,
vous asseoir. C'est un honneur et un privilège de vous introduire le serviteur prophète pour cette génération. le messager, Frère William Branham. Que le Seigneur vous bénisse. Merci, Frère William. Je salue Frère Salano et son épouse, ainsi que tous les délégués qui assistent à ce banquet ce soir. C'est vraiment un grand privilège d'être ici. J'attendais cette heure depuis le moment même où nous avons pris la route pour venir. Et je veux remercier cette dame. Je n'arrive pas à me rappeler son nom. Billy vient de me dire qu'elle m'a donné une boîte de bonbons de Noël et qu'elle a apporté ça à la voiture il y a quelques instants. Cette soeur, je n'arrive pas à me rappeler son nom. Elle est d'ici, en Californie. C'était mon premier cadeau de Noël. Donc, je vous en remercie. Maintenant, ce soir, il est en ce moment à Tucson, il est 21h10, mais je pense qu'ici, il n'est que 20h10. Alors, nous, j'ai l'impression que les gens me connaissent comme un prédicateur intarissable. Alors, j'espère. Merci. C'est vraiment... Il y a de gentilles personnes ici. Je vous remercie. Mais je suis presque au bout du rouleau ce soir, à force d'avoir prêché. Je l'ai fait sans arrêt depuis Shreveport et en traversant la région pour venir jusqu'ici ce soir, après soir. Et alors, on est un peu secoué, vous savez. On prend froid et on a la gorge irritée. J'ai commencé à Shreveport. J'ai perdu mes cheveux il y a quelques années. Et j'avais un petit postiche et je porte quand je prêche dans le Nord. Et pour ne pas avoir un rhume, je suis allé à Shreveport et je l'ai oublié. J'ai vraiment attrapé un rhume. C'est courant d'air qui vous arrive comme ça. Vous ne pouvez pas imaginer. C'est accidentellement que j'ai perdu mes cheveux. Et la peau est encore délicate. Et il suffit que je transpire un peu et ma gorge est complètement prise. Il m'a fallu écouter bien des réunions. Alors, je suis juste un petit peu enroué ce soir. Par contre, nous tenons à dire que nous avons passé des moments merveilleux en faisant route pour venir jusqu'ici dans les réunions. Hier soir, nous avons passé des moments merveilleux avec les frères là-bas à l'autre chapitre. Et alors, beaucoup de gens sont venus à l'assistance. C'était merveilleux. Les gens étaient si respectueux et si gentils. Alors, je suis vraiment fier de faire partie des hommes d'affaires du plein d'évangiles. Cela a été. J'ai un message qui, je pense, vient de Dieu. Il est un peu étrange pour certains. Je n'y peux rien. Je ne peux être que ce que je suis. Et nous, je ne fais pas exprès d'être différent des autres. C'est simplement que je vis dans un temps de changement, nous. Tant que qu'on construise un mur en ligne droite, tout va bien. Les maçons peuvent mettre les briques les unes à côté des autres. Mais quand il faut tourner à l'angle, c'est là que... Et nous ne construisons pas un mur, nous construisons une maison, vous voyez. Donc, ces virages doivent venir. Ils sont venus dans l'âge de Martin Luther et de John Wesley, dans l'âge pentecôtiste, et nous y voient six à nouveau. De nouveau, alors, nous, il est difficile de tourner aux angles, mais je suis vraiment reconnaissant envers Dieu, même si cela a été très dur et les gens ont bien réagi 100%. Donc, nous sommes très reconnaissants. Nous remercions chacun de vous. Maintenant, avant d'ouvrir les livres, parlons à l'auteur, si vous le voulez bien, pendant un instant, alors que nous inclinons la tête. Dieu bien-aimé, nous te sommes reconnaissants ce soir pour le privilège de connaître Jésus-Christ, notre Sauveur, ton Fils, et le pardon gratuit de nos péchés, et de savoir que son sang est suffisant, qu'il a couvert tous nos péchés, et toutes nos iniquités sont si bien effacées et mises dans la mer de l'oubli de Dieu, que son épouse sera là au souper des noces pures, sans mélange, pour épouser le Fils de Dieu. Combien nous te remercions pour cette œuvre entière suffisante et pour la foi qui nous est, qui nous fait savoir que nous ne nous confions pas dans nos propres mérites, mais uniquement dans son mérite à lui, en raison de ce qu'il nous a fait pour nous. Nous en sommes tellement reconnaissants. Merci pour le succès que ses frères outre-mer là-bas, dans le pays où les gens ont faim et soif de Dieu, je prie, Seigneur, qu'ils s'y retournent, ces enfants qu'ils ont fait entrer dans le royaume, soit les arrière-grands-mères et les arrière-grands-pères des enfants qu'eux auront fait entrer à leur tour. Accorde le Père, bénis-nous ensemble ce soir et puisse le Saint-Esprit nous donner les choses dont nous avons besoin. Ferme notre bouche aux choses dont nous devrions pas dire et ouvre nos cœurs pour recevoir ce que nous devrions. Tu voudrais nous dire. Accorde le Père, C'est au nom de Jésus que nous faisons cette prière. Amen. Merci. Prenons dans la Bible un petit texte sur lequel ce soir j'aimerais parler pendant quelques instants et qui se trouve dans Marc au chapitre 10. Et j'avais, il y a quelques années, quand j'allais prêcher, je n'avais même pas besoin de noter quoi que ce soit. Je pouvais m'en souvenir et je n'avais pas besoin de mettre des lunettes pour lire dans la Bible. Mais depuis que j'ai maintenant dépassé 25 ans pour la deuxième fois, alors ça m'est un peu difficile de faire comme avant. Comme une voiture éreintée, mais je roule toujours. Ah oui, je veux continuer à faire teuf-teuf jusqu'à ce que j'aille sur le tas de ferraille pour être fondu de nouveau. C'est la promesse. Luc, au chapitre 10, à partir du, je crois que j'ai dit le verset 21, si je peux le trouver ici quelque part, j'ai fait erreur, c'est Marc, excusez-moi. C'est Marc, chapitre 10, et le verset 20, à partir du verset 21, et je vais lire, prenons plutôt le verset 17. « Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui, « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? » Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. » Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, et tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. Il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Je lui dis, Jésus l'ayant regardé, l'aima, et lui dit, il te manque une chose. Va et vends tout ce que tu as. Donne-le aux pauvres, et tu auras des trésors dans le ciel. Puis viens, et prends ta croix, et suis-moi. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Maintenant, nous allons parler ce soir d'un sujet. Je veux prendre comme texte, suis-moi, et comme sujet, être conduit. Alors, c'est étrange, mais j'ai pensé aujourd'hui, pendant que j'étais en prière, que peut-être j'ai pris tellement de temps et chaque soir, je m'en suis tenu au message que le Seigneur m'a donné à apporter. Et j'ai pensé que ce soir, dans ce nouveau chapitre, j'aborderai ceci sous un autre angle. Bien des fois, nous en avons parlé et nous l'avons intitulé « Le jeune homme riche ». Et bon nombre des ministres qui sont ici, mes frères, l'ont sans doute abordé de bien des manières différentes et je veux essayer de l'aborder d'une manière différente ce soir, comme je ne l'ai encore jamais fait, ce sujet d'être conduit. Ceci, souvenez-vous de ceci, que chacun de nous, les jeunes comme les vieux, le tout premier pas que vous avez fait dans votre vie, quelqu'un a dû vous conduire, c'est vrai. Et pour le tout dernier pas que vous ferez, quelqu'un vous conduira. Quelqu'un doit conduire. Dieu nous a comparé à des brebis. Et si quelqu'un s'y connaît dans l'élevage de brebis et dans la nature des brebis, eh bien, vous savez qu'une brebis ne peut pas trouver son chemin tout seul. Il faut qu'on la conduise. Même dans les abattoirs, nous voyons qu'on amène la brebis là et que c'est un bouc qui la conduit sur le lieu d'abattage. Un bouc la conduit jusque-là, puis quand il arrive au bout du couloir, il saute en dehors et la brebis continue, tout droit à l'abattage. Donc, nous voyons qu'une brebis ne peut pas trouver son chemin tout seul. Je me souviens d'une expérience que j'ai eue une fois avec une brebis. J'étais garde-chasse dans l'état d'Indiana et j'étais allé sur le terrain. J'ai entendu quelque chose, le cri le plus pitoyable. Et c'était un agneau qui avait perdu sa maman et il ne pouvait pas trouver son chemin pour la rejoindre. Et la mère ne pouvait pas trouver son chemin pour le rejoindre et le petit agneau. J'ai pris le petit animal dans mes bras et il s'est blotti tranquillement contre moi et j'ai continué à marcher tout en tenant le petit animal dans mes bras. Il avait crié et je l'avais entendu et il a simplement appuyé sa petite tête tout contre moi et on aurait dit qu'il savait que j'allais l'aider. J'ai pensé, oh, rocher des âges, fendu pour moi sous le Soulève-moi dans les bras du Seigneur Jésus en ayant cette satisfaction de savoir que je vais rentrer dans la maison pour être avec mes bien-aimés. J'ai passé à la fin de mon voyage de cette vie. Emporte-moi simplement dans tes bras, Seigneur, comme ça, en sachant que je serai transporté là-bas à ce moment-là, de l'autre côté du fleuve, et là où il n'y aura ni chagrin, ni maladie, ni rien, et que je serai avec le bien-aimé que j'ai aimé. Et si vous étudiez la nature, il y a quelque chose de grand dans la nature. Tout ce que je regarde et ce que Dieu a fait, il est l'auteur de la nature. La nature fonctionne en continuité. Toute la nature fonctionne à peu près de la même manière. Vous regardez, vous remarquerez tout. Comme je l'ai dit, je crois hier soir, la nature témoigne de Dieu. Si vous n'aviez jamais eu de Bible, vous pourriez quand même observer la nature et savoir que cette Bible est la vérité. J'ai eu le privilège de faire plusieurs fois le tour du monde et j'ai lu à propos de différentes phases. Et j'ai vu différentes religions, les Mohammedans, et j'ai vu le Coran, et j'ai vu les Sikhs, les Jains, les Mohammedans et les Bouddhistes, et quoi encore? Mais bien qu'ils aient chacun une philosophie et un livre de credo, et un livre de loi, et ainsi de suite, mais notre Bible est la vérité. Et notre Dieu est le seul à avoir raison. En effet, chacun d'eux doit montrer un tombeau quelque part où leur fondateur se trouve toujours, tandis que le christianisme montre un tombeau ouvert et a la possibilité de vivre en présence de celui qui a été mis. Il est vivant. Ce n'est pas Dieu qui était, c'est un Dieu qui est. Pas un j'étais, ni je serai, mais je suis. Et toute la nature fonctionne en continuité, comme je l'ai dit, en parlant de notre âge de l'Église. D'ailleurs, nous en avons les livres là-dessus, qui vont paraître sous peu. Et sur le sujet, mon écrit sur les âges de l'Église, nous voyons l'Église comme elle est elle a mûri, c'est développé exactement comme l'a fait toute la nature. Nous parlions l'autre jour du soleil qui se lève le matin, un petit bébé très faible, qui n'a vraiment pas beaucoup de force du tout. Et alors que le jour avance, il devient de plus en plus fort. Vers 8 heures, il entre à l'école comme un petit garçon ou une petite fille. Puis vers les 11 heures, il sort de l'école, il est prêt à servir. Ensuite, il avance jusqu'à environ 15 heures et passe du milieu de la vie à la vieillesse, puis il meurt dans l'après-midi. Est-ce la fin du soleil? Non. Il revient le lendemain matin pour témoigner qu'il y a une vie, une mort, un ensevelissement, une résurrection. Vous voyez? Nous observons les arbres comme ils suivent leur cours et ce qu'ils font. Et il y a quelque temps, j'étais au Kentucky. J'aime chasser les écureuils. Je suis allé là-bas à l'automne pour chasser les écureuils avec un de mes amis. C'est devenu très sec. Et toute personne qui a déjà chassé les écureuils gris sait combien il est difficile de les surprendre quand les feuilles écrasées en une. Oh! Houdini n'est qu'un amateur comme virtuose de l'évasion en comparaison des petits animaux là comme ils peuvent décarper. Et puis, quand on essaie de toucher l'œil en tirant à une distance de 50 yards, il faut bien chasser pour atteindre le nombre autorisé par jour. Donc, M. Wood, un de mes amis, un témoin de Jéhovah converti, était avec moi et nous, il a dit, je sais où se trouve la ferme d'un homme par ici. Il y a beaucoup de, nous appelons ça des vallons. Combien savent ce qu'est un vallon? Oh, bien, alors, vous êtes de quelle région du Kentucky? Vous voyez, c'est de là que je viens. Comme il n'y avait pas longtemps, il y a l'un des chapitres, il faut que je dise ceci à Frère William et les autres frères. Ils ont dit, nous allons maintenant nous lever et chanter l'hymne national. Et j'ai dit, pour ma vieille patrie du Kentucky. Alors, personne n'a chanté avec moi. Alors, c'était le seul hymne que je connaissais. Donc, nous étions là. Très bien, monsieur. Veuillez prier pour une dame ici qui est en ce moment 5 du nez. Prions. Dieu bien-aimé, je te demande, Seigneur, tu es le grand guérisseur. Et je demande que ta grâce et ta miséricorde touchent à l'instant cette chère dame et arrête ce sang comme les croyants qui se sont assemblés. Cette dame est venue ici pour bénéficier de la parole du Seigneur et de la communion avec les gens. Alors je te demande, Seigneur, à l'instant de réprimer l'ennemi et d'arrêter le sang au nom de Jésus-Christ. Amen. Et nous le croyons. Poursuivons notre petit récit juste pour tâter un peu le pouls avant d'aborder directement les quelques notes que Jésus écrit ici, de même que quelques passages de l'Écriture. Alors, il a dit ici, eh bien, cet homme âgé, nous allons passer le voir sur son terrain. Il y a beaucoup de vallons, il a dit, mais c'est un incrédule. Il a dit, il nous chasserait pratiquement à coups de jurons si nous allions là-bas. J'ai dit, mais nous attraperons pas d'écureuils si ça fait deux semaines que nous campons, nous étions sales et nous avions les visages couverts de barbe. Il a dit, bien, j'ai dit, allons-y. Alors, nous sommes allés quelques milles plus loin, environ 20 milles. J'étais déjà allé une fois auparavant dans cette région pour trois soirs à un lieu de campement méthodiste, où de grandes choses avaient été accomplies par le Seigneur, où il y avait un grand service de guérison parmi les méthodistes. Et alors, nous avons pénétré très loin en franchissant des collines et des vallons et des crêtes. Et il faut connaître le Kentucky pour savoir quel genre d'endroit il nous fallait traverser. Sur ce chemin, nous sommes arrivés à une maison et un homme âgé était assis là. Deux hommes âgés étaient assis là. Les vieux chapeaux cachaient partiellement leur visage. Et il a dit, le voilà, il a dit, c'est un dur à cuire. Il a dit, il a le mot prédicateur en heureux, il a dit. Alors, j'ai dit, eh bien, je ferais mieux de rester là dans la voiture, sinon on ne pourra pas chasser du tout. J'ai dit, toi, vas-y, demande-lui si on peut chasser. Il est donc sorti, il s'est approché, il leur a parlé. Le Kentucky, vous savez, c'est toujours entrer donc et tout. Il s'est donc approché, il a dit, je me demandais s'il pouvait chasser un moment sur votre terrain. Cet homme était âgé, était assis là, il avait environ 75 ans, le jus de tabac dégoulinissait sur sa barbe, de sa bouche, il a dit, il a craché, il a dit, tu t'appelles comment? J'ai dit, je m'appelle Wood, il a dit, ah, tu as un lien de parenté avec le vieux Jim qui habitait, il a dit, oui, je suis le fils de Jim, il a dit, je suis Banks Wood. Et oui, eh bien, il a dit, le vieux Jim était un honnête homme. Il a dit, certainement, c'est toi, il a dit. Es-tu seul? Il a dit, non, mon pasteur est là-bas. Il a dit, quoi? Il a dit, mon pasteur est dans la voiture. Il a dit, il chasse avec moi. Il a dit, Wood, tu ne veux pas me dire que tu es tombé si bas que tu dois te trimballer un prédicateur avec toi partout où tu vas? Alors, c'était un vieil irréductible. Alors, je me suis dit que je ferais mieux de sortir de la voiture, vous savez. Donc, je suis sorti, je me suis approché. Il a dit, tiens, tiens, tiens. Et vous êtes un prédicateur. J'ai dit, oui, monsieur. Il m'a regardé de la tête aux pieds, du sang, d'écureuil, de la saleté. Il a dit, eh bien, j'ai dit, tu n'en as pas trop l'air. Il a dit, eh bien, j'aime assez ça. Il a dit, vous savez, je veux vous dire quelque chose. Il a dit, on dit que je suis un incrédule. Eh bien, il a dit, je ne sais pas, il a dit, je vais vous dire que moi, je pense de vous autres. Et j'ai dit, bien, très bien, il a dit, vous aboyez devant le mauvais arbre. Combien savent que cela veut dire? Vous voyez, cela veut dire que c'est un chien qui ment. Que vous voyez, le raton laveur n'était pas du tout là-haut. Vous voyez, il a dit, vous aboyez devant le mauvais arbre. J'ai dit, c'était une affaire d'opinion, il a dit, eh bien. Il a dit, regardez, vous voyez cette vieille cheminée qui se dresse là-bas? J'ai dit, oui. Je suis né là-bas il y a 75 ans, il a dit. J'ai vécu ici, même dans cette colline, pendant toutes ces années. Et il a dit, j'ai regardé vers les cieux et j'ai regardé ici-bas. Certainement qu'au fils de ces 75 ans, j'aurais vu quelque chose qui ressemblait à Dieu. Vous ne pensez pas? J'ai dit, eh bien, ça dépend de ce que vous regardez, vous voyez, de ce que vous cherchez. Il a dit, eh bien, il a dit, je ne crois vraiment pas qu'une telle créature existe. Et je crois que vous autres, tout ce que vous faites, c'est aller escroquer de l'argent aux gens et tout. Et c'est comme ça que ça se passe. J'ai dit, eh bien, vous êtes un citoyen américain. Vous avez le droit de penser ce que vous voulez. Il a dit, il y a un gars dont une fois j'ai entendu parler, auquel je voudrais bien, si jamais j'avais l'occasion de lui parler, il a dit, j'aimerais lui poser quelques questions. J'ai dit, oui, monsieur, c'était un prédicateur, vous le connaissez peut-être, il a dit. Il fait des réunions ici au Camperville, il y a bien pas longtemps ici, sur le terrain de l'église, un lieu de campement. Il a dit, son nom m'échappe, il a dit, il vient de l'Indiana. Et j'ai dit, oh, oui, monsieur. Oh, frère Wood allait dire, eh bien, ne dis pas ça. Alors, il a dit, j'ai dit, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, eh bien, il a dit, la vieille dame, quelqu'un là-haut sur la colline, il a dit, vous savez, elle se mourait du cancer. Il a dit, ma femme et moi, nous montions là-bas le matin pour changer son lit. Il a dit, on ne pouvait pas la soulever assez haut pour la mettre sur le bassin hygiénique. Il a dit, il fallait tirer sur une à l'aise. Il a dit, elle se mourait. Elle était allée à Louisville. Elle disait que les méthodistes, les médecins l'avaient condamné, ils avaient déclaré qu'elle allait mourir. Alors sa sœur est allée à cette réunion où elle a dit que ce prédicateur se tenait sur l'estrade et s'était retourné pour regarder l'auditoire, qu'il a appelé cette femme à son nom et lui a dit que quand elle était partie, elle avait pris un mouchoir et l'avait mis dans son sac à main. Il a donné le nom de la femme qui habitait ici à 20 000 plus bas et il a dit qu'elle souffrait du cancer, comme elle s'appelait, et tout ce qu'elle avait traversé, il a dit, prenez ce mouchoir et allez le poser sur cette femme. Et il a dit que cette femme serait guérie de son cancer. Il a dit, ils sont venus ici ce soir-là. Il a dit, sans exagérer, j'ai entendu des cris épouvantables là-haut. J'ai pensé qu'ils avaient lâché l'armée du salut là-haut sur la colline. J'ai dit, la vieille sœur doit être morte. J'ai dit, non. Nous, demain, avec la charrette, nous irons la chercher et nous l'amènerons. Ensuite, jusqu'à la route principale, et j'ai dit, de là, ils pourront l'emporter chez l'entrepreneur des pompes funèbres. Et j'ai dit, nous avons entendu, il était inutile que nous montions là-haut à cette heure-là de la nuit. Il a dit, c'est une distance d'environ 1 000, là-haut sur la colline. Il a dit, nous y sommes montés le lendemain matin. Vous savez ce qui est arrivé? J'ai dit, non, monsieur. Elle était assise là, en train de manger des chaussons aux pommes frites, de boire du café avec son mari. J'ai dit, sérieusement? Il a dit, oui, monsieur. Et moi, j'ai dit, monsieur, quand même, vous ne parlez pas sérieusement. Il a dit, oui, ce qui me travaille, c'est que comment est-ce que cet homme qui n'a jamais été dans cette région a pu savoir ça, voyez? Et j'ai dit, oh, vous ne croyez pas ça? Il a dit, oui, c'est la vérité. J'ai dit, vous croyez ça, voyez? Il a dit, eh bien, montez là-haut sur la colline, je peux vous le prouver maintenant, c'est lui qui m'a prêché, vous voyez? Alors j'ai dit, j'ai ramassé une pomme et j'ai dit, est-ce que je peux avoir une de ces pommes? Je l'ai frottée sur mes vêtements. Il a dit, eh bien, ce sont les guêpes qui les mangent, alors vous pouvez bien en prendre une. Et puis, alors j'ai dit, eh bien, j'ai mordu dedans et j'ai dit, elle est bonne cette pomme. Il a dit, oh oui. Il a dit, vous savez quoi, j'ai planté cet arbre à cet endroit il y a 40 ans. Quelque chose comme ça. Et j'ai dit, oh vraiment, oui monsieur. Et j'ai dit, eh bien, à chaque année, j'ai dit, je remarque que nous n'avons pas encore eu de gel et nous sommes au début d'août. Et j'ai dit, les feuilles tombent des arbres. Oui, monsieur, c'est exact. C'est l'automne qui arrive. Je crois que cette fois, nous aurons un automne précoce. J'ai dit, oui, monsieur, j'ai changé de sujet. Vous voyez, il a dit, j'ai dit, eh bien, vous savez, c'est étrange. J'ai dit, que la sève se retire de l'arbre. J'ai dit, et ces feuilles qui tombent, et pourtant, elles n'ont pas eu de gel pour les tuer, ces feuilles. Il a dit, quel rapport avec ce que nous sommes en train de dire? Et j'ai dit, eh bien, je me pose la question, c'est tout. Vous savez, maman disait toujours, si on laisse la bride à une vache, elle se mettra elle-même la corde au cou. Vous savez, alors je lui lâchais la bride. Donc, il a continué, il a dit, eh bien, oui, mais quel rapport? J'ai dit, vous savez, Dieu fait pousser ses pommes et vous appréciez ses pommes et ses feuilles. Vous essayez à l'ombre de tout le reste. Elle descend en automne et j'ai dit, elle remonte de nouveau avec la pomme et les feuilles. Il a dit, oh, ça, c'est simplement la nature. Vous voyez, c'est simplement la nature. J'ai dit, mais bien sûr que c'est la nature. Et j'ai dit, c'est la nature, mais quelqu'un doit diriger la nature, vous voyez? Il a dit, maintenant, dites-moi, qu'est-ce que ce qui fait ça? Il a dit, eh bien, c'est tout naturellement la nature. J'ai dit, qu'est-ce qu'il dit à cette feuille-là? Et j'ai dit, maintenant, la raison pour laquelle cette feuille tombe, c'est parce que la sève descend dans la racine. Mais si cette sève restait dans l'arbre pendant l'hiver, qu'est-ce qui arriverait? Il a dit, ça tuerait l'arbre. Eh bien, j'ai dit, maintenant, quelle est l'intelligence qui fait descendre la sève dans la racine? Il lui dit, maintenant, file d'ici, l'automne arrive, descends dans la racine et cache-toi. Et elle reste là, dans les racines, comme si c'était au tombeau. Puis le printemps suivant, elle remonte et produit de nouveau la pomme, et produit de nouvelles feuilles et tout ça. Il a dit, c'est simplement la nature, elle fera ça. Il a dit, le temps au changement et vous serez à l'arrivée de l'automne. J'ai dit, mettez un seau d'eau là-bas sur le poteau et regardez si la nature la fait descendre au pied du poteau et la fait remonter. Voyez. Eh bien, il a dit, il se pourrait qu'il y a du vrai dans ce que vous dites. J'ai dit, réfléchissez à ce moment, ça pendant que nous irons chasser. Eh bien, il a dit, chassez où vous voulez. Il a dit, et quand je reviendrai, vous me direz quelle est l'intelligence qui a fait descendre cette sève de l'arbre juste dans les racines et reste là tout l'hiver. Puis il revenait l'hiver suivant et je vous dirai que c'est cette même intelligence qui m'a dit ce qui en était de cette femme là-bas. Il a dit, vous êtes dit à vous? J'ai dit, oui, monsieur. Il a dit, vous n'êtes pas ce prédicateur-là. Et j'ai dit, dit, « Est-ce que vous reconnaîtrez son nom? » Il a dit, « Oui. » J'ai dit, « Branham. » Il dit, « C'est lui. » Et j'ai dit, « c'est ça, vous voyez. » Et j'ai dit, et une année plus tard, j'y suis retourné et je suis entré dans la cour avec une voiture qui portait une plaque de l'Indiana. Il avait déménagé, il était décédé. Donc, à mon retour, sa femme était là. Elle pouvait vraiment, elle voulait vraiment me passer un savon. Je pensais que j'avais la permission de chasser. Elle s'était avancée. Elle a dit, vous ne savez pas lire. J'ai dit, oui, madame. Elle a dit, avez-vous vu ces écriteaux qui disent chasse interdite? J'ai dit, oui, madame. Mais j'ai dit, j'ai la permission. Vous n'avez pas la permission. Elle a dit. Elle a ajouté, ça fait des années qu'on a mis des écriteaux d'interdiction sur cette propriété. J'ai dit, eh bien, sœur, alors j'ai eu tort, je regrette. Elle a dit, mais non, vous ne regrettez rien, vous avez des plaques de l'Indiana et vous vous installez ici, vous êtes vraiment des gens culottés. J'ai dit, est-ce que je pourrais juste vous expliquer? J'ai dit, elle a dit, qui vous a donné la permission? J'ai dit, je ne sais pas au juste. J'ai dit, c'était un homme âgé qui était dit, assis là, sur la galerie, quand j'étais ici l'année dernière et nous parlions de Dieu, vous voyez? Elle m'a regardé, elle a dit, êtes-vous frère Branham? J'ai dit, oui, madame. Elle a dit, pardonnez-moi, je ne savais pas que vous étiez. Elle a dit, je veux vous donner son témoignage pendant ces dernières heures. Juste avant sa mort, il a levé ses mains, il a loué Dieu. Elle a dit, il est mort dans la foi chrétienne. Il a été emporté vers Dieu, vous voyez. Taise les pierres qui rient. S'il y a quelque chose dans la nature, observez les oiseaux, observez les animaux, observez tout ce qu'il y a, observez bien la nature. Eh bien, c'est pareil maintenant à cause de nos mauvaises voies. Le Saint-Esprit s'envole tout simplement, il s'en va. Il faut que ce soit dans la même nature, l'oiseau des cieux, la colombe, l'animal le plus doux sur la terre, l'agneau. S'ils peuvent s'accorder, quand le Saint-Esprit vient sur nous et qu'il fait de nous de nouvelles créatures, alors... Il peut nous conduire, mais si nous essayons de mettre le même genre de vie qu'avant, ça ne marchera tout simplement pas. Maintenant, probablement que le premier pas que vous avez fait dans votre vie en parlant d'être conduit, vous l'avez probablement fait en tenant la main d'un gentil maman. Ses mains sont peut-être immobiles ce soir, là-bas, quelque part dans ce cimetière, mais c'est cette main qui vous a tenu pour vous permettre de faire votre premier pas. Puis après que maman vous a appris à marcher, vous fassiez quelques pas, vous tombiez et vous vous releviez et vous pensiez à vous faire... Est-ce que vous fassiez là de grandes choses? Ensuite, elle vous a confié la maîtresse d'école et elle a commencé à vous conduire, que vous ayez de l'instruction comme il faut. Comme il faut faire et ce qu'il faut faire et ce qu'il faut apprendre et ainsi de suite et comme ça. Puis après que la maîtresse d'école a terminé son travail avec vous, alors vous êtes revenu et c'était votre père qui vous a pris la main. Et là, quand votre père vous a pris la main, il vous a peut-être appris à votre métier, comment être un homme d'affaires prospère, comment faire les choses correctement. Votre mère vous a appris à être une ménagère et à cuisiner et ainsi de suite comme ça. Puis après qu'ils vous ont terminé le travail avec vous, alors votre ou votre prêtre vous a pris en main. Mais maintenant, qui est-ce qui vous conduit? Voilà, premièrement, la question. En ce soir, nous sommes tous conduits par quelque chose. Il le faut. Nous sommes conduits. Remarquez ce jeune homme, ce qui l'avait influencé. Regardons, ce jeune homme d'affaires, comme nous pourrions l'appeler, parce que c'était un homme d'affaires, c'était un homme qui avait bien réussi. Regardons ses conducteurs. Peut-être que, premièrement, sa mère lui avait enseigné, quand il était un petit garçon, la chose qu'il devait faire. Son père l'avait fait de lui quelqu'un qui avait bien réussi, et peut-être qu'il lui avait laissé un héritage, puisqu'il était lui-même un dirigeant, peut-être, avec son père qui était parti. Donc, il était un homme d'affaires, il était un, appelons-le aujourd'hui, disons, un homme d'affaires chrétien, ou était un homme d'affaires religieux, je pense qu'il serait plus approprié de le dire comme ça. Cet homme était religieux, il n'était absolument pas un incrédule. Sa mère lui avait appris à faire ce qui était bien, à marcher, à s'habiller. Son père lui avait appris à monter une grande entreprise et comment être un homme prospère. Et son affaire marchait bien. Son père et sa mère, ils avaient été élevés dans l'église et ils l'avaient dirigé vers le prêtre. Et le prêtre avait fait de lui un homme très religieux. Par conséquent, c'était un homme très cultivé. C'était un brave garçon qui avait un bon caractère. Si Jésus-Christ, en le regardant, l'a aimé, c'est qu'il avait quelque chose d'authentique dans ce garçon. C'est vrai, car la Bible dit ici que c'était ce que nous voyons dans Marc, et Jésus l'ayant regardé l'aima. Oui, Jésus l'ayant regardé l'aima. Et donc, il devait y avoir quelque chose de vraiment remarquable chez ce jeune homme. Il était un bon caractère, il était apprécié des gens. Pour son bon caractère, c'était un homme qui avait été bien élevé. Il était intelligent, habile, intellectuel, prospère dans les affaires. C'était un homme religieux. Il avait beaucoup de bons côtés qui étaient remarquables et de tel point que cela a été l'attention de Jésus-Christ le Sauveur. Mais quand il a été confronté alors qu'il avait réussi dans toutes ces autres choses, rien n'avait mal tourné. Il était parfaitement bien taillé. Il était à la hauteur, intelligent, il avait reçu une bonne éducation, il avait du succès, il était habile, c'était un bon homme d'affaires qui faisait probablement partie d'un groupe d'hommes d'affaires quelque part là-bas, en Palestine peut-être qu'il faisait partie d'une association d'hommes d'affaires comme ce que nous avons ici ce soir, sans doute que oui, parce que les hommes d'affaires ont toujours eu la communion entre eux, les uns avec les autres. En effet, c'est comme les oiseaux d'un même plumage, ils ont des choses à discuter, les hommes religieux ne veulent pas parler de l'homme qui est le patron du bar et de eux ensemble parce qu'ils n'ont rien en commun. Il faut que nous ayons des choses en commun. Alors, les chrétiens ont des choses en commun avec les chrétiens et les pêcheurs ont des choses en commun avec les pêcheurs et les associations, quelles soient, elles ont des choses en commun. Et ce jeune garçon faisait probablement partie d'une association d'hommes d'affaires. Il était aussi religieux qu'on peut l'être parce que Jésus, qui le questionnait, il a dit, j'ai observé ces commandements que je les ai tous observés dès ma jeunesse, c'est vrai. Vous voyez, il avait été bien élevé, bien enseigné et tout. Mais quand il a été confronté à l'idée de la vie éternelle, maintenant, je veux vous faire remarquer que malgré toutes les qualités qui le caractérisent, il savait pourtant qu'il ne possédait pas la vie éternelle. Or, toutes nos associations, nos églises, notre qualité de membre et les choses qui nous sont tellement chères, nos associations américaines et tout, c'est très bien, on ne peut rien dire contre cela. Et notre association des hommes d'affaires chrétiennes ici, c'est quelque chose de formidable qui a été pour moi une porte ouverte sur mes idées interdénominationnelles que nous sommes chrétiens. Il n'y a personne, pas une seule dénomination qui puisse prétendre avoir des droits sur nous, sur un vrai chrétien, parce que vous appartenez à Dieu. Les dénominations sont de fabrication humaine, tandis que le christianisme est envoyé du ciel. Mais bien que nous ayons toutes ces choses, ainsi bonnes qu'elles soient-elles, de bonnes choses que nous rassembler et avoir de bonnes réunions, de bonnes relations sociales entre nous, pourtant nous sommes tous confrontés à la vie éternelle. Et peu importe combien nous avons réussi dans les affaires, combien nous avons réussi et quels bons membres d'Église nous sommes, combien nous travaillons et combien nous sommes efforçons de faire les choses correctement. Pourtant, ce n'est pas fait en suivant la bonne voie, c'est de rendre culte à Dieu en vain. Jésus a classé ça de la même manière. Je m'arrête ici un instant, il a dit, c'est en vain que vous me rendez un culte N'enseignez comme doctrine des commandements d'hommes. Maintenant, réfléchissez un culte sincère, honnête, avec une sincérité qui vient du cœur envers Dieu et que ce soit quand même en vain. C'est comme ça que cela a commencé avec Caïn au Jardin d'Éden. Un culte sincère, mais qui a été rejeté. Très religieux, mais quand même rejeté. À Shreveport, la semaine dernière, il y a deux semaines, à une réunion des hommes d'affaires, un petit déjeuner là-bas, alors que plusieurs centaines de personnes s'étaient rassemblées, j'ai pris 2 heures et demie pour parler de rendre service à Dieu sans que ce soit la volonté de Dieu. Or, ça peut sembler bizarre, seulement voilà, nous devons nous canaliser, entrer dans le canal pourvu de Dieu. Par Dieu et dans la manière de Dieu de faire les choses. Peu importe combien nous pensons que c'est bien, il faut que ce soit selon la parole de Dieu, sinon c'est en vain qu'il a adoré. Mais ce n'était pas selon la parole de Dieu. Les pharisiens ont adoré, mais pas selon la parole du Seigneur. Et dans ce message particulier que j'ai adressé aux hommes d'affaires, j'ai enseigné ceci. David, il voulait rendre service au Seigneur. Il avait raison dans ce qu'il a dit. Il a dit, est-ce que juste que l'arche de l'Éternel soit là-bas, amenons-la ici, du temps du roi, de l'autre roi auquel il avait succédé. Il a dit, ce n'est pas juste, ils n'ont jamais consulté l'Éternel au moyen de l'arche, mais c'est ce que nous devons faire, eh bien, c'est exact, c'est ce qu'il aurait dû faire. Il a dit, il faudrait que nous allions chercher l'arche, alors nous pourrons consulter l'Éternel, et c'est vrai, il se trouvait dans l'autre pays. Et elle dit, il faut que nous l'amenions ici, que nous l'amenions ici, que nous la mettions dans notre maison ici, que nous adorions l'Éternel. Maintenant, remarquez, il a utilisé le mauvais canal pour le faire. Il a consulté les chefs de 50, de 100 et de 1000. Et ils ont tous été consultés. Chacun d'eux, ils voyaient que c'était la volonté du Seigneur de toute ta apparence, que c'était la parole du Seigneur. La parole du Seigneur, parfois, il faut la placer au bon endroit, sinon ce n'est pas la volonté du Seigneur. Voyez, mais laissez pénétrer cela profondément et vous aurez une idée générale de ce que je cherche à dire. Je ne veux pas que l'Église suive la trace de l'Angleterre, ce qu'on a vu là-bas, des hommes aux cheveux longs, des visages fardés, des pervertis. Nous ne voulons pas ça! Peu importe combien cela peut avoir l'air religieux, tous les chants religieux qu'Elvis Presley peut chanter, il est quand même un démon. Je ne suis pas juge, mais c'est à leur fruit que vous les reconnaîtrez. Voyez, il est pentecôtiste, mais ça ne change absolument rien. Ça, vous voyez, vos fruits rendent témoignage de ce que vous êtes. L'esprit aura bien. Vous venez sur lui, il pourra parler en langue, il pourra pousser des cris, il pourra guérir les malades. Jésus a dit, plusieurs d'entre eux viendront à moi ce jour-là et diront, Seigneur, n'ai-je pas fait ceci et cela? Je dirais, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Et je ne vous ai jamais connu. Voyez, nous devons être de vrai, d'authentique chrétien, et la seule manière pour vous y arriver, c'est de faire face à cette question ici de la vie éternelle. Il n'y a qu'une seule forme de vie éternelle, et elle vient de Dieu. Comme vous étiez un gène de votre père, et vous étiez un gène de Dieu, un de ses attributs dès le départ, sinon vous n'y serez jamais. Vous êtes apparu dans le terrain d'ensemencement de votre mère. Votre père, vous ne connaissez pas, vous étiez dans son rein, dans ses reins. Et quand vous êtes apparu dans le terrain d'ensemencement de la mer, alors vous êtes devenus un être humain et vous avez été fait à l'image de votre Père. Maintenant, vous pouvez être en communion avec lui. C'est la même chose avec Dieu. Si vous avez la vie éternelle, la vie avec laquelle vous arrivez, la vie naturelle, la vie physique, celle-là venait de votre Père. Et le seul moyen pour vous de naître de nouveau, le seul moyen, c'est qu'il faut que ça vienne de votre Père céleste, de ses attributs. Tous ceux que le Père m'a donnés viendront à moi. Voyez, vous êtes ici parce que votre nom a été placé dans le livre de vie de l'agneau, avant même qu'il y ait une fondation du monde. C'est tout à fait vrai. Vous êtes un gène spirituel qui vient de votre Père céleste, une partie de la parole de Dieu, s'il en est ainsi, comme je l'ai dit. Alors, vous étiez en Jésus quand vous étiez ici, parce qu'il était la parole. Vous avez souffert avec lui, vous êtes morts avec lui, vous avez été ensevelis avec lui, vous êtes ressuscité avec lui, maintenant vous êtes assis dans les lieux célestes en lui. Remarquez, David pensait que tout allait bien, il a consulté tous ces gens et tout, ils se sont mis à danser, à jubiler, à pousser des cris, ils ont accompli toutes les pratiques religieuses, mais néanmoins, ce n'était pas la volonté de Dieu d'aller là-bas et de ramener la parole de Dieu à la maison de Dieu. Mais vous voyez, Dieu, toujours, dans tous les âges, a eu un seul moyen à travers lequel il a agi. Sa première décision et sa seule décision, parce qu'il est, parfait dans ses décisions. Il ne fait jamais rien sans l'avoir d'abord révélé à ses serviteurs, les prophètes, et c'est exact. Voilà pourquoi ceci, l'âge de l'Église dans laquelle nous vivons, il n'y a aucune Église méthodiste, baptiste, pentecôtiste ou autre qui puisse jamais amener cette Église à être l'épouse. Il faudra Maléchicat comme réponse. Que Dieu envoie un prophète auquel il puisse se révéler, parce que c'est le seul moyen. Nos Églises ne se forment des démonations en se retrouvant alors en plein gâchis. Elles sont un ramassis de gens comme elles l'ont toujours été. Dieu envoie toujours les prophètes. Il y avait Nathan qui était dans le pays, un prophète confirmé de Dieu, devant Dieu, et on ne l'a même pas consulté. Ils sont allés là-bas et ont coûté, et ce qui a coûté la vie d'un honnête homme et tout, ils ont pris l'arche plutôt que de le mettre sur les épaules des Lévites pour le transporter. Ils l'ont mis sur un char pour le transporter, un gâchis total. Et ce garçon, il a été confronté à la même chose. Il était venu là, il était un membre peut-être des pharisiens ou des séducins ou d'un mouvement important de l'ordre établi de l'époque. Il était tout ce qu'il y a de plus religieux. Il a dit, j'ai observé ces commandements qu'on m'a enseignés depuis ma jeunesse, vous voyez. Et Jésus l'a aimé à cause de ça, mais il a refusé d'être guidé. Il a refusé d'accepter d'être vraiment conduit par Jésus-Christ, ce qui lui procurait la vie éternelle. Remarquez, il croyait qu'il y avait quelque chose de différent de ce qu'il avait, sinon il n'aurait jamais dit, bon maître, que dois-je faire maintenant? Vous voyez, il voulait faire quelque chose lui-même. Nous aussi, c'est ça, comme ça, nous voulons faire quelque chose nous-mêmes. Le don de Dieu est un don gratuit, Dieu vous l'a donné, vous n'avez pas une seule chose à faire pour vous et le recevoir. vous n'avez... Il vous l'a dessiné. Vous allez le recevoir. Voyez, remarquez, il savait qu'il était là. Il y croyait. Il voulait le recevoir, mais quand il a été confronté à la manière de procéder pour y arriver, c'était différent de son rituel. C'était différent. Il pouvait garder son argent et continuer à faire partie de l'Église. Donc, il faisait partie et tout le reste. Mais Jésus savait ça. Il savait qu'il avait amené cet argent. Il a dit, il va prendre tout ce que tu as et donner aux pauvres. Puis viens prendre ta croix et suis-moi. Et tu auras des trésors dans le ciel, mais il n'y a pas pu le faire. Les autres conducteurs, ils avaient eu dès sa jeunesse, ils avaient eu tellement d'influence sur lui qu'il a refusé d'accepter la voie pourvue par Dieu. C'est-à-dire Jésus-Christ, le seul à devenir la vie éternelle, le seul à pouvoir vous le donner. Ce n'est pas l'Église qui peut vous le donner, la vie éternelle. Pas votre voisin, pas votre pasteur, pas votre prêtre, pas votre credo. Seul Jésus-Christ lui-même peut vous donner la vie éternelle. Et peu importe combien vous êtes bon, ce que vous arrêtez de faire, ce que vous commencez à faire, il faut que vous acceptiez la personne du Seigneur Jésus-Christ. Et alors, quand vous le faites, il est la parole. Alors, votre vie concorde parfaitement avec la parole. Elle se manifeste à l'âge dans lequel vous vivez. Noé, ce qu'il lui a fallu faire pour que la parole se manifeste dans son âge à lui. Mais c'est ce qu'il se... Qu'est-ce qui se serait passé si Moïse était venu en disant, nous savons ce que Noé a fait, nous allons prendre la parole de Noé, nous allons nous y prendre exactement comme Noé l'a fait, nous allons construire une arche et descendre le Nil pour sortir de l'Égypte. Eh bien, ça n'aurait pas marché, vous voyez, ça c'était un autre âge, et Jésus n'aurait pas pu venir avec le message de Moïse, Luther n'aurait pas pu venir avec le message catholique, Wesley n'aurait pas pu venir avec le message luthérien, les pentecôtistes n'auraient pas pu venir avec le message de l'âge de Wesley, l'épouse ne peut pas être formée dans les dénominations pentecôtistes. Elle ne le peut tout simplement pas. C'est tout à fait vrai. Celle-ci, c'est organisé, c'est fait. Elle est allée là et c'est là qu'elle se trouve. Et comme tous les autres, c'est là-bas, tout comme la vie qui monte en passant par. Vous voyez, cet écrivain, comme je le disais l'autre soir, cet écrivain qui écrit ce livre, et ce n'était pas parce qu'il m'a critiqué si durement en disant que j'étais un démon, si une telle chose existait. Alors il a dit, il ne croyait pas en Dieu. Il a dit, un Dieu qui a pu se croiser les bras et rester là, regarder ses martyrs pendant les premiers âges, et alors il prétendait avoir le pouvoir d'ouvrir la mer Rouge. Il a laissé ses femmes et ses enfants se faire déchirer par les lions et tout, et puis il a déclaré qu'il était un Dieu d'amour. Il a dit, une telle créature n'existe pas. Vous voyez, cet individu et à qui il manque l'inspiration de la parole, il ne voit pas ce qu'il en est. Il fallait que le premier grain de blé, l'époux, tombe en terre pour pouvoir ressusciter. De même, il fallait que la première épouse, qui est née de la Pentecôte, traverse l'âge des ténèbres comme toute autre semence, qu'elle soit ensevelie. Il fallait qu'il meure. Il le fallait, mais elle a commencé à germer de nouveau avec Luther dans la première réforme. Ce ne ressemblait pas à la semence qui avait été mise en terre, mais c'était la lumière de ce temps-là. Tige, puis c'est passé dans l'aigrette, Wesley, et de l'aigrette, c'est passé dans la Pentecôte, la balle. Il y a trois étapes à cela, vous voyez, ensuite, elle forme le blé en dehors des trois étapes, Luther, Wesley, les Pentecôtes. Exactement, vous voyez, il n'y a pas de tout, on ne peut pas arrêter le cours de la nature. Maintenant, regardez, trois ans après qu'un message envoyé de Dieu a été proclamé, chaque fois qu'il s'organise, celui-ci, ça fait 20 ans, il n'y a pas d'organisation, il n'y en aura pas, vous voyez. Maintenant, il faut que la balle se retire pour permettre au blé de rester en présence du Fils avant qu'il mûrisse le message qui vient directement dans l'Église de nouveau pour former le corps de Jésus-Christ, identique au premier grain originel qui avait été mis en terre. Maintenant, pour voir la vie éternelle, la vie, bien sûr, la tige qui était là, elle a porté la vie. Bien sûr que oui, mais vous voyez quand c'est devenu la tige et que celle-ci a été est arrivée à son terme, à l'organisation, la vie est passée directement à Wesley. Elle est sortie pour entrer directement là. À un moment donné, chacun d'eux, chacun une grande feuille, ça ne ressemble pas au grain. Mais quand le petit pollen vient comme la balle ou sur la tige, le pollen et les graines, ça ressemble beaucoup aux grains. Mais quand on en arrive à la balle, là où on y est presque, Jésus n'a-t-il pas dit que dans les derniers jours, Matthieu 24, 24, les deux seraient tellement proches que ça séduirait même les gens les jeunes, les prédestinés, les élus, si c'était possible. C'est presque comme la chose véritable, vous voyez. Donc, dans les derniers jours, maintenant, vous voyez, c'est le temps du blé, maintenant. C'est bientôt le temps de la moisson, ce n'est pas l'âge de Luther, ce n'est pas l'âge de la Pentecôte, c'est l'âge de l'épouse. Comme Moïse a appelé les nations hors d'une nation, Christ, aujourd'hui, appelle une église hors d'une église. Vous voyez, la même chose en type, il les amène au glorieux pays promis éternel. Maintenant, de refuser cette personne qui appelle Christ, peu importe que vous soyez pentecôtiste, méthodiste, luthérien, quoi que vous soyez, vous devez, en cet âge, rien contre eux, absolument rien, mais en cet âge-ci, maintenant, vous devez accepter, comme ils l'ont fait dans cet âge-là, la personne de Christ qui est la parole. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et la parole a été faite chair, et elle habitait parmi nous. Le même hier, aujourd'hui, éternellement. Hébreux 13:8, vous voyez? Vous devez accepter cette personne-là qui est la vie éternelle. Or, la vie que Luther a eue, c'était la justification. Wesley a eu la sanctification qui a été ajoutée cela à la Pentecôte. A eu la restauration des dons qui sont revenus, qui sont ajoutés à cela. Mais maintenant, c'est l'achèvement dans le record. Vous voyez, des trois étapes de cela. Et c'est de là, maintenant, quand la résurrection arrivera, la vie qui a vécu dans ces luthériens, qui est sorti de la vie, qui a vécu dans les méthodistes et qui est sorti, la vie qui est entrée dans la pentecôtiste, tout cela sortira du sol et sera enlevé dans le corps de l'épouse pour être emporté devant Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Oh, c'est enthousiasmant. C'est la vérité. Nous avons pris un virage. Nous regardons vers le ciel en attendant la venue. La pierre du fait de la pyramide, comme nous pourrions le dire, son retour, l'Église doit ressusciter bientôt et nous devons nous préparer. Et le seul moyen pour vous de le faire, ce n'est pas en disant, eh bien, je fais partie des assemblées, je fais partie des unitaires, des militaires, ou quoi que ce soit, toutes celles qui sont là, je fais partie de l'Église, de Dieu. Ça ne veut rien dire du tout. Nos pères ont poussé des cris et dansé. C'est tout à fait bien. C'était leur temps à eux, mais aujourd'hui, vous êtes confrontés non pas à l'organisation qu'ils ont fait, mais à la vie qui continue d'avancer, c'est-à-dire Jésus-Christ. Ce jeune homme avait fait de la même chose. Moïse avait écrit ses commandements, mais voyez-vous, ce même Dieu qui avait écrit le commandement par son prophète, c'est le même qui avait prophétisé qu'un jour viendrait où je susciterai son prophète comme moi, et tous ceux qui ne l'écouteront pas seront retranchés. Ils se retrouveront dans les balles et dans les aigrettes dénominationnelles. Il faut qu'ils continuent d'avancer vers la vie. Et aujourd'hui, ne dites pas, je suis pas côté, je fais partie de ceci, partie de cela, ça ne veut rien dire. Il faut que vous acceptiez la personne, Christ, la vie éternelle. Tous, nous sommes confrontés à cela, ne l'oubliez pas. Les autres conducteurs, vous voyez, ils avaient eu tellement d'emprise sur lui. Ils enseignaient à leurs fidèles, eh bien, nous faisons partie de ceci, nous faisons partie de cela, et ils avaient eu tellement d'emprise sur lui, mais combien il est fatal de refuser d'être sous la conduite de la vie éternelle. Or, cette vie est présente ce soir. C'est vrai, le Saint-Esprit est ici. C'est Christ sous forme d'esprit. Son esprit, l'onction est ici. Un peu de temps et le monde ne me verra plus. Cependant, vous me verrez. Car je serai avec vous et même en vous jusqu'à la consommation, jusqu'à la fin du monde. Il n'y a que Jésus qui peut vous conduire à cette vie éternelle. Aucune église, aucune nation, aucun prédicateur, aucun prêtre, ni rien d'autre ne peut vous conduire à elle. Vous devez être conduit par lui. C'est la seule qui peut vous conduire. Vous pouvez l'imaginer en train de vous conduire en dehors de sa parole, qui est lui-même. De plus, s'il est la parole et que vous êtes une partie de lui, ne serez-vous pas une partie de la parole sur laquelle Dieu vous reparle les eaux du salut aujourd'hui afin d'établir son identité aujourd'hui comme les disciples l'avaient identifié, comme Luther, comme Wesley, comme les anges de cette époque-là l'avaient identifié. Ceci, c'est un autre âge, c'est la parole. La parole a déclaré ces choses que nous voyons arriver maintenant. Elles ont été prédites comme devant arriver à cette heure-ci. Alors, acceptez Jésus-Christ et laissez-le vous conduire à la vie éternelle. Bien que ce jeune homme soit parvenu à accomplir, ils étaient parvenus à accomplir toutes sortes de bonnes choses. À l'école, il avait bien réussi et un bon garçon qu'il était. Sans doute qu'il avait été guéri, gentil. en tant que vrai père, pour avoir écouté son papa dans les affaires. Il avait été un bon garçon. Bon, envers ses parents, il avait été fidèle à son prêtre, il avait été fidèle à son église, il avait été fidèle au commandement de Dieu. Mais il a perdu la plus grande chose et toutes les autres ne lui ont pas servi de grand chose. Quand il a refusé d'être conduit par la vie éternelle, Jésus-Christ, remarquez, chacun de nous aujourd'hui est confronté à cette conduite comme l'a été ce jeune homme. Nous, peu importe combien nous sommes religieux, il se peut que vous soyez catholique, il se peut que vous soyez baptiste, méthodiste, il se peut que vous soyez pentecôtiste ou quoi que ce soit que vous soyez, vous êtes confrontés à cette même chose ce soir. La vie éternelle, c'est de dire, c'est-à-dire accepter Jésus-Christ. Cette occasion vous a été donnée. À un moment donné dans la vie, il nous faut faire face à cette chose, tout comme ce jeune homme l'a fait. En effet, vous êtes un être mortel, vous est donné l'occasion de choisir, vous avez le choix. Dieu a fait en sorte que vous puissiez choisir. S'il a donné à Adam et Ève le libre arbitre pour qu'ils puissent choisir, et là, eux, ont fait le mauvais choix. Vous voyez, il ne peut pas faire plus pour vous qu'il n'a fait pour eux. Il doit vous le donner aussi pour que vous puissiez choisir ou rejeter. Vous avez le choix. Regardons certains de ces choix. Vous avez à faire un choix comme jeune homme, soit de faire des études ou de ne pas en faire. Vous avez le choix. Vous pouvez vouloir simplement ne pas en faire. Vous pouvez simplement refuser. Vous avez le choix à faire un choix quant à votre comportement. Je vais blesser un petit peu ici. Voyez, vous pouvez sortir et laisser vos cheveux pousser, être un Beatles ou ces espèces d'ignorants. Mais qu'est-ce qui vous est arrivé, Église? Vous avez tellement regardé la télévision, tellement vu de choses du monde, c'est tellement facile pour vous, votre vieille nature d'Adam, et de se laisser entraîner là-dedans et de faire comme les autres. Permettez-moi de répéter comme ceci. Au moment du pain cacheur, de l'offrande, de l'expiation, à l'époque de Moïse, quand Moïse a fait sortir les enfants pendant 7 jours, il ne devait y avoir aucun levain parmi les peuples. Tout le monde sait ça. Dans Exode, il ne trouvera point de levain dans votre camp pendant 7 jours. Ces 7 jours représentaient l'ensemble des 7 âges de l'Église, vous voyez. Pas de levain. Alors, qu'est-ce que c'est? Pas de credo, rien du monde. Jésus a dit, si vous aimez le monde ou les choses du monde, l'amour de Dieu n'est pas en vous. Voyez, nous essayons de mélanger ces choses. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous devez venir à croire une seule chose. Ou bien vous allez croire Dieu, ou bien vous allez croire votre Église, ou bien vous allez croire le monde. Vous ne pouvez pas mélanger tout ça et vous ne pouvez pas rester attaché à ces vieilles choses auxquelles l'Église devant s'était attachée. Vous devez accepter le message de l'heure. Il a dit, ce qui reste, ne les gardez pas jusqu'au matin. Ce qui se trouve dans cet âge, cet autre âge, brûlez-le dans le feu et ce qui se soit détruit. Là, l'âge dans lequel vous vivez, le message de cet âge, il doit être tiré des Écritures et confirmé et prouvé par Dieu pour montrer que c'est Dieu qui a fait ces choses. Alors, soit que vous le receviez ou que vous le rejetiez, c'est la vie éternelle d'être conduit par le Saint-Esprit alors qu'il conduit son Église. Nous pourrions nous attarder longtemps là-dessus, mais avançons. Continuons simplement à avancer. Le choix. Quant à votre comportement, vous ne pouvez pas mélanger ça. Vous êtes soit pour Dieu, soit contre Dieu. À l'expression extérieure montre exactement ce qu'il y a à l'intérieur. Vous voyez, le grand trop, beaucoup d'entre vous pensent que j'ai le baptême du Saint-Esprit, je vais au ciel. Ça ne veut pas dire du tout que vous allez au ciel. Non, monsieur, vous pouvez avoir le baptême du Saint-Esprit chaque heure de votre vie et être quand même perdu et aller en enfer. La Bible dit, oui, c'est tout à fait vrai. Regardez, vous êtes une personne extérieure. Vous avez 5 sens qui contactent ce corps extérieur. Dieu vous a donné 5 sens. Pas pour entrer en contact avec lui, mais avec votre demeure terrestre, la vue, le goût, le toucher, l'odorat et l'ouïe. Puis vous avez un esprit à l'intérieur de ça, et il y a 5 sortes de la conscience et l'amour, et ainsi de suite. 5 sorties au moyen desquelles vous entrez en contact avec le monde et l'esprit, mais pas par votre esprit. Votre partie physique entre en contact avec ce qui est physique et votre partie spirituelle entre en contact avec ce qui est spirituel. Mais à l'intérieur de ça, vous avez un âme et cette âme, c'est ce gène qui vient de Dieu. C'est comme le bébé qui prend forme dans le ventre de sa mère. Quand le bébé vient dans le ventre de la mère par le petit germe qui se glisse à l'intérieur de l'ovule et ne forme pas une cellule d'être humain, puis une de chien, puis une de chat, puis une de cheval. Ce sont tous des cellules humaines parce qu'elles sont formées qu'elle se forme à partir d'une cellule humaine initiale. Une fois qu'un homme est né de nouveau par la parole de Dieu, prédestiné à la vie éternelle, ce qu'on appelle les élus, alors ce sera la parole de Dieu sur parole, sur parole de Dieu sur parole, parole sur parole, pas un credo de nationale, aucune. Et ensuite, une parole, puis un credo, ça ne marchera pas. Vous ne pouvez pas avoir le levain là-dedans. Il n'y a qu'une seule vie éternelle. Jésus-Christ, la parole, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et la parole était faite chair, et elle habitait parmi nous. C'est correctif quand je vois l'Église qui perd du terrain, qui dévie en disant, eh bien, nous avons fait ceci, nous avons fait cela, et qu'en parcourant l'Église, ce regard, je vois, ça ne marchera tout simplement pas. Et puis, en regardant ici dans la Bible, je vois qu'il faut que ce soit comme ça. À la fin, c'est ancien de l'Église, de l'âge de la Odyssée qui met Jésus la parole à la porte. Il n'a jamais appelé, il va pas appeler une église. Il a dit, tous ceux que j'aime, je les reprends, je les châtie, je prends la parole et je cogne dur en disant, vous avez tort, c'est pour cette raison parce que je vous aime. Ça, vous avez la porte. Si vous ouvrez la porte et que vous me laissez entrer, j'entrerai et je souperai avec vous. Et il ne s'agit pas d'une église puisque là, puisqu'on l'a déjà mise à la porte de ça. Elle s'est dirigée vers le conseil communique et c'est là qu'elle s'en est allée. Elle est retournée tout droit à Rome d'où elle est venue. C'est exact. J'ai écrit sur une feuille de papier il y a 25 ans et 33 ans et ça y est. Et non seulement, mais c'était aussi écrit dans la Bible. D'après une vision, il y est retourné. Il n'y a aucun moyen de la sauver. Elle est fichue. Il va s'en être ainsi. Dieu appelle des individus. Je m'en tiens à la parole de... Et je frappe. Si quelqu'un, n'importe qui, un individu sur 1000, il se pourrit que ce soit un sur 1 million. Comme je l'ai dit l'autre soir, quand Israël est sorti d'Israël, il y avait seulement 2 millions de personnes qui sont venues et seulement 2 millions, seulement 2 personnes sont entrées. Une sur 1 million. Le saviez-vous? Caleb et Josué. Et Josué, quand il était sur terre, ils lui ont dit, nos pères ont mangé la manne dans le désert et nous observions les traditions et nous faisions ceci. Nous savons à quoi nous en tenir. Il a dit, je sais que vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont tous éternellement séparés, ils sont morts. Et quand le sperme sort du mâle et de la femelle, il y a 1 million de vules qui arrivent et 1 million de germes qui arrivent. Et sur toutes ces petites germes et l'espèce en question, ici, ça vient du taureau ou de l'homme ou quoi que ce soit, il y a simplement des millions de germes, 1 million de germes en action. Là-dedans, il n'y a qu'un seul de ces jambes qui est destiné à la vie. Parce qu'il n'y a qu'une seule ovule là, qui est fécond et qui va s'unir à lui, c'est vrai. Il ne s'unira qu'à un seul ovule, tout comme ce corps qui est ici et le germe qui vient de Dieu. Voyez, observez ce petit germe qui s'avance parmi tous ces autres germes, qui les contourne à ce tourtillant, qui les dépasse, qui va par là trouver cet ovule fécond. Et il se glisse à l'intérieur et toutes les autres meurent. Et c'était la même chose pour l'Église aujourd'hui. 1 sur 1 million, vous voyez où elle en serait. Étroite à la porte et resserrée le chemin. Il y en aura peu qui le trouveront, car spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en aura beaucoup qui entreront par là. Est-ce la vérité, Frère Branham? Je ne sais pas, mais je ne fais que citer l'Écriture, voyez. Vous avez à faire un choix. Votre comportement, la manière dont vous vous comportez, c'est votre affaire. Vous avez à faire un choix. Votre épouse, vous allez prendre quelqu'un pour épouser. Vous voulez prendre une épouse. Vous voulez prendre une qui soit complémentaire vous prévoyez que cela sera votre futur foyer. Vous vous imaginez qu'un homme chrétien aille prendre pour épouse une de ces ricotables modernes, hein? Pouvez-vous imaginer ça? Qu'est-ce que cet homme a en tête? Quelle sorte de foyer aura-t-il s'il épouse une stripteaseuse, une fille de musique, ramassée ici dans la rue, une vulgaire prostituée, vous dites, une minute, là, comment s'habille-t-il? Voyez, si elle porte des shorts et des choses comme ça, c'est une vulgaire prostituée, vous dites, voyons, Frère Branham, Oh, ces espèces de petits jupes serrées, on dirait que ça, que vous avez été moulé dedans, une vulgaire prostituée. J'ai dit, quiconque regarde une femme pour la convoiter a commis un adultère avec elle dans son cœur, alors il devrait répondre de cela. Elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a exhibé sa personne qui est coupable. Pensez-y. Vous dites, ils ne font pas d'autres vêtements. Ils ont du tissu et des machines à coudre. Il n'y a aucune excuse. Non, c'est exact. Maintenant, je ne veux pas vous blesser. Et ceci n'est pas une plaisanterie. C'est ainsi dit le Seigneur. Selon les Écritures, c'est tout à fait vrai, mon ami. Je suis un homme âgé. Je ne vais pas rester encore longtemps ici, mais je dois vous dire la vérité. Même si ceci devrait être mon dernier message, c'est la vérité. Voyez, ne faites pas ceci. Ne faites pas ça, sœur. Ne faites pas ça, frère. Et vous qui vous accordez un credo alors que vous savez que la parole de Dieu est confirmée jusque devant vous, le baptême de cet esprit, c'est la réalité que nous avons aujourd'hui et là, et à cause de votre credo, vous en détournez. Comment pouvez-vous vous être un fils de Dieu et nier la parole de Dieu et être qui a été prédite pour ces derniers jours où nous vivons? Comment pouvez-vous faire ça? Comment la Bible peut-elle appeler? Comment ce que je racontais hier soir, cette histoire au sujet d'un roi dans le sud, un jour à l'époque où on vendait les gens de couleur comme esclaves, eh bien, c'était comme un commencement de voiture d'occasion. On vous remettait un acte de vente pour eux, et ça m'avait beaucoup frappé quelque part. Un jour, j'ai lu qu'un marchand était passé là-bas pour acheter quelqu'un. Il a dit, alors, bon, j'aimerais, il était triste, il fallait leur donner le fouet pour qu'ils travaillent parce qu'ils étaient loin de chez eux. On les avait vendus comme esclaves et on était dans un pays étranger dont ils ne connaissaient rien. Ils n'allaient plus jamais rentrer chez eux. Ils étaient tristes. Il fallait leur donner le fouet pour qu'ils travaillent. Mais donc, ce marchand était passé dans une certaine plantation. Il y avait là un jeune homme qui bombait le torse et qui gardait son menton levé. Lui, on n'avait pas besoin de lui donner le fouet. Il était courageux, il aidait les autres à garder le moral. Le marchand a dit, je vais acheter celui-là. Il a dit, il n'est pas à vendre, vous n'achèterez pas celui-là parce qu'il n'est pas à vendre. Il a dit, eh bien, qu'est-ce qui le rend celui-là si différent? Il a dit, est-ce qu'il est le chef des autres? Il a dit, non, est-ce que vous lui donnez autre chose à manger qu'aux autres? Il a dit, non, c'est un esclave, il mange là-bas à la cantine avec les autres. Il a dit, qu'est-ce qui le rend si différent? Il a dit, je me suis posé la même question. Jusqu'à ce que je trouve là-bas en Afrique, d'où il vient, là, les Boers, là où ils sont, les ont achetés pour ensuite les amener ici et les vendre comme esclaves. Là-bas, son père est un roi d'une tribu. Eh bien, qu'il soit un étranger loin de chez lui, il sait qu'il est un fils de roi et c'est pourquoi il se comporte comme ça. Mais au fond de son cœur, il savait qu'il y avait chez Jésus-Christ quelque chose de différent de ce temps-là. Et tous les messages qui arrivent, un message authentique né de Dieu, est différent de la vieille tendance. Quant à la guérison divine est apparue, il n'y a pas longtemps, avez-vous remarqué, les imitateurs qui ont suivi, voyez tous, ils sont là quand ces organisateurs, et ils y restent. Est-ce que quelqu'un le sait qu'un message devait faire suite à ça? Voyons, Dieu ne cherche pas à nous divertir. Il attire notre attention par quelque chose, et une fois qu'il a attiré notre attention, il présente son message. Regardez, quand il est venu sur terre au début, qu'il a commencé son ministère, « Oh, jeune rabbi, nous voyons que nous viennent... Nous voulons que tu viennes à notre église. Viens donc par ici. Le jeune prophète, oh, nous voulons que tu viennes. Viens ici. Viens par ici. » Mais un jour, il s'est levé. Il a dit, « Moi et mon père, nous sommes un. » Oh là là! Il s'est fait Dieu. Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point de la vie en vous-même. C'est un vampire. Nous n'aurons rien à faire avec ça. Les apôtres, eux, sont restés là. Des milliers l'ont quitté. Mais ces apôtres étaient cités dans la ville. Là, il a dit, ils ne pouvaient pas l'expliquer. Ils croyaient, ils tenaient à cela parce qu'ils disaient, personne ne peut faire ses œuvres. Même les sacrificateurs le savaient. Nicodème a dit, nous savons, le Saint Édrin, que personne ne peut faire ses œuvres sans qu'elles ne viennent de Dieu. Voyez, le jour de la Pâque, Pierre a dit, Jésus de Nazareth, cet homme approuvé de Dieu devant vous. Dieu était avec lui. Regardez dans les Écritures ce que les Écritures avaient dit qu'il allait faire. Jésus a dit, ce sont dans les Écritures en elles, vous pensez avoir la vie éternelle. Ce sont celles qui rendent témoignage de moi. Si vous aviez connu Moïse, vous m'auriez connu. Car Moïse a écrit, je viendrai. Sous quelle forme je viendrai? Il est venu comme fils de l'homme. Et il vient sous trois noms, en tant que Dieu, trois. Comme Père, Fils et Saint-Esprit, le même Dieu. Ce sont trois attributs. Bon, il y a aussi la justification, la sanctification, Luther, Martin, les pentecôtistes, c'est la même chose. Trois attributs, trois étapes, trois âges de l'Église. Même chose. Donc, nous voyons ici, vous avez le droit de choisir. Vous choisissez la jeune fille que vous voulez épouser, si elle vous accepte, très bien. Puis une autre chose, vous avez le choix entre vouloir vivre et ne pas vouloir vivre. Vous choisissez maintenant entre la vie et la mort. Vous pouvez vivre. Ce garçon avait ce choix. Il avait réussi dans toutes les autres choses. C'était un homme religieux, mais il savait que lorsqu'il l'a dit lui-même, j'ai observé tous ces commandements dès ma jeunesse, mais il savait qu'il n'avait pas la vie éternelle, voyez. Il avait le choix de l'accepter ou de le refuser. Il l'a rejeté. Voilà l'erreur la plus fatale qu'il ait pu commettre. Tout le reste ne comptait pas. Ça ne compte pas, à moins d'avoir fait ce choix. Maintenant, suivons-le et ce choix qu'il a fait, voyons où cela le conduit maintenant. Voyons où s'est porté son choix. Bon, regardez, c'était un homme riche, c'était un homme d'affaires, c'était un chef, c'était un homme religieux, tout ça. Aujourd'hui, nous dirions, dis donc, c'est un vrai méthodiste, baptiste ou pentecôtiste. C'est quelqu'un de très bien, un garçon très sympathique. Il est super. Rien à redire à son sujet, gentil, sympathique, social et tout. Rien d'immoral chez lui, probablement qu'il ne fumait pas, qu'il ne buvait pas, qu'il ne courait pas les spectacles, les soirées dansantes et tout ce qui nous pourrions dire aujourd'hui de quelqu'un qui est étiqueté comme chrétien. Mais là, encore, ce n'est pas ça la vie éternelle, ce n'est que nous parlons. Peut-être qu'il était fidèle à son église, tout probable qu'il était. Mais vous voyez, cela l'a-t-il conduit? Il a une grande popularité, disons qu'il était prédicateur. S'il était prédicateur, il aurait pu avoir une meilleure église, il aurait pu être un surveillant général ou évêque, voyez. Cela vous conduit à la popularité, cela l'a conduit à la richesse et à la gloire. Cela pourrait faire la même chose aujourd'hui. Vous avez beaucoup de talent pour le chant. Je pense à ce jeune homme qui, tout à l'heure, a chanté ce chant ici. Il avait donné ça au diable et maintenant, là, il le reprend. Quelle différence entre lui et Elvis Presley et certains d'entre eux. Pat Boone et ce genre de groupe, Ernest Ford et ces gars-là de grands chanteurs. Et leur talent et ces talents que Dieu leur a donnés, ils les utilisaient. Ils les utilisent pour inspirer les œuvres du diable, c'est vrai. De grands chanteurs qui viennent les talents que Dieu leur a donnés pour acquérir la gloire dans ce monde, pour devenir quelqu'un. Comment pourriez-vous devenir plus quelqu'un qu'en étant un fils de Dieu? Vous avez beau vouloir être tout ce qu'il y a de plus religieux, vous avez beau vouloir être tout ce qu'il y a de plus fidèle à l'Église, et vous, prédicateur, vouloir être à la chair, mais si vous rejetez ça, vous mourrez. Il avait réussi. Ici, dans cette vie, certainement, en l'observant, nous remarquons, nous voyons ensuite que cet homme est allé. Si nous le suivons un peu, nous voyons qu'il a beaucoup de succès et nous le suivons dans la Bible. Nous remarquons qu'il était un homme riche. Il possédait de très grandes propriétés. Il recevait le juge et le maire de la ville et tous ces gens-là. Il était là et sur le toit et il donne de grands banquets avec plein de serveuses et de femmes et de jeunes filles et tout ça autour de lui. Et là, couché à la porte, il y avait un mendiant qui s'appelle Lazare. Il balait les miettes et il les envoie dans sa direction. Nous connaissons cette histoire. Et puis, il a continué à avoir du succès. Et comme les églises aujourd'hui, un homme d'affaires qui était ici me disait qu'ici, même en Californie, l'église doit dire au syndicat ce qu'il faut faire. Vous voyez, cela redevient une affaire d'église et d'État. Ça en est plein sur vous. Vous voyez, vous êtes en plein là-dedans et vous prenez la marque de la bête et sans le savoir, si vous, Vous avez été déjà arrivé d'acheter une des bandes. Procurez-vous celle-là après mon retour chez moi à la trace du serpent et vous verrez ce qu'il y en est. Vous verrez où ceci aboutit. Je retourne chez moi maintenant. Pour parler de ça, si le Seigneur le veut, ça prendra environ 4 heures. C'est pourquoi je ne pourrai pas l'apporter dans une réunion comme celle-ci. Il faudra que j'aille là-bas où l'Église me supporte partiellement, patiemment aussi longtemps. Remarquez, mais bien, bon. Vous pourrez écouter cette bande chez vous, le moment venu. Mais ce qu'il faut qu'il fait au commencement, il avait refusé d'être sous la conduite de Jésus-Christ. Son Église, son intelligence, son instruction et tout, il avait conduite à la réussite. Tous les Juifs l'aimaient. Il leur faisait des dons et il les aimait. Il avait peut-être fait ceci, cela ou autre chose. Mais vous voyez, il a refusé d'être conduit par Jésus-Christ, la vie éternelle. Et la Bible dit, il a dit, « L'insensé cette nuit, ton âme te sera redemandée. » Et là, nous le retrouvons, le lieu suivant. Dans le séjour des morts, il a levé les yeux et ce mendiant qu'il avait jeté à la rue, il a vu dans le sein d'Abraham, quelle erreur fatale. Les églises, elles avaient bien agi selon la voie qu'elles avaient suivie, mais il reste qu'elles n'avaient toujours pas la vie éternelle. Ça me rappelle un sermon que j'ai prêché il n'y a pas longtemps, le filtre d'un homme qui réfléchit. Peut-être que vous l'avez eu, je marchais dans les bois et j'étais à la chasse aux écureuils cet automne et j'ai regardé par terre. Bien sûr, je ne peux pas citer le nom de la compagnie de cigarettes, vous la connaissez. Et par terre se trouvait un paquet de cigarettes, j'ai juste passé à côté, je cherchais dans les bois et j'ai vu un paquet de par terre et je regardais de nouveau en disant le filtre d'un homme qui réfléchit, le goût d'un homme qui fume. Et j'ai simplement repris ma marche dans les bois. Et le Saint-Esprit a dit, « Fais demi-tour et ramasse-le. » J'ai tendu la main et j'ai ramassé le filtre d'un homme qui réfléchit, le goût d'un homme qui fume. J'ai pensé, « Voici un filtre, une firme américaine qui vend la mort d'une manière déguisée à ses concitoyens américains, le filtre d'un homme qui réfléchit et le goût d'un homme qui fume. » J'étais à l'exposition internationale alors que Yul Brynner et d'autres étaient là et ils présentaient tous ces quatre tests. Et après une cigarette, il a aspiré sur un morceau de marbre et il a pris essuyé la nicotine. Il l'a mise sur le dos d'un rat et d'un rat blanc. Et au bout de 7 jours, ils étaient tellement couverts de cancer qu'ils ne pouvaient plus marcher. Et ils disaient, vous savez, ils parlent de filtre. Ils disaient, c'est une combine. Avec ça, ils vendent plus de cigarettes. Il faut une certaine quantité de nicotine pour satisfaire un démon. C'est vrai. Et quand vous prenez une cigarette avec le filtre, il faut environ 4 cigarettes pour vous en remplacer une. C'est une combine pour vous vendre plus de cigarettes. Vous ne pouvez pas avoir de fumée sans goudron. Et avec le goudron, vous avez le cancer. Vous voyez comment ça se passe. Et les Américains aveugles, ils s'attendent à voir sortir un lapin de chapeau quelque part. Et il tombe dans le panneau. Vous ne pouvez pas avoir ça. C'est la mort. Peu importe de quelle façon vous vous y prenez. C'est la mort de toute façon. Le filtre d'un homme qui réfléchit. Un homme qui réfléchit ne fumerait pas du tout. C'est vrai. S'il réfléchit un temps soit peu, eh bien, je me suis dit que ça se peut aussi s'appliquer aux églises, voyez. Je me dis, est-ce que Dieu a un filtre? Oui. Et chaque église a un filtre, c'est vrai. Elle filtre ceux qui entendent et elle laisse entrer beaucoup de morts aussi. Comment pourriez-vous arriver à faire passer une dénomination à travers le filtre de Dieu? Comment pourriez-vous le faire? Comment pourriez-vous faire passer une femme aux cheveux coupés à travers ce filtre? Dites-moi, comment pourriez-vous faire passer à travers cette femme une femme qui porte des pantalons alors que c'est une abomination pour elle de mettre un vêtement d'homme? Vous voyez, le filtre de Dieu le retiendrait dehors. Il ne le laisserait pas entrer, mais l'Église a ses propres filtres. Alors je dis qu'il y a un filtre pour l'homme qui réfléchit. C'est la parole de Dieu. Il satisfait le goût d'un homme saint. C'est vrai, d'un homme saint, pas d'un homme d'Église, mais le goût d'un homme saint, parce que c'est la sainteté à l'état pur, la parole de Dieu sans mélange. Il y a un filtre pour l'homme qui réfléchit. Et vous, membres d'Église, je vous conseille d'utiliser celui-là, parce que ça fait entrer le monde. Et un peu de cette pâte-là, c'est la mort. Un peu de pâte fait lever, et ce petit peu de levain fait lever toute la pâte. Quiconque retranchera une seule parole de ceci, ou il retranchera une seule parole, sa part sera retranchée du livre de vie. Au jardin d'Éden, quelle a été la cause de la mort et de toute cette tristesse, de chaque chagrin, de chaque petit bébé qui meurt, et de chaque râle dans la gorge, de chaque hurlement d'ambulance, et de chaque hôpital, de chaque cimetière, c'est parce qu'elle a douté d'une seule parole. Pas de la totalité, cela a seulement été déformé. En Dieu, ils avaient dit l'homme, là, il devait garder toute parole de Dieu. Bon, c'est le début de la Bible. Au milieu de la Bible, Jésus est venu, il a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, pas seulement une partie, mais toute la parole. À la fin de la Bible, Apocalypse 22, Jésus a donné le témoignage de lui-même. La révélation de la Bible, c'est Jésus-Christ. Il a dit, quiconque retranchera une seule parole de ceci, ou il ajoutera une seule parole, sa part sera retranchée du livre de vie. Maintenant, si vous passez à travers ce filtre-là, d'un homme qui réfléchit, vous aurez le goût d'un homme saint en ressortant de là. C'est vrai. Vous aurez un goût saint. Sœur, vous qui sortez, portez ces vêtements, pensez-y. Vous allez vous dire, je suis vertueuse à l'égard de mon mari. Je suis vertueuse à l'égard de mon petit ami. Je suis une fille vertueuse, mais qu'en est-il de ce pécheur qui vous a regardé? Quand il aura une réponse à répondre d'adultère, qui l'a fait? Vous voyez, vous serez coupable. Vous le voyez écrit dans la parole. Donc, c'est, voyez, soyez une femme qui réfléchit, réfléchissez. Vous direz peut-être, il se pourrait que, bon, mais s'il se trouvait qu'il en soit bien ici, il l'a dit, et pas une seule parole ne peut faillir, voyez. Ça montre qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Celui qui conduit, c'est le Saint-Esprit, mon ami. Il vous conduit, il vous guide dans toute la vérité quand il sera venu. Oui, le Saint-Esprit, maintenant, réfléchissez à ça, peut-être. Optez pour le filtre d'un homme qui réfléchit. C'est la Bible, pas votre credo, pas votre église, vous serez perdus. Optez pour le filtre d'un homme qui réfléchit. C'est là que ce garçon n'a pas réfléchi, il a opté pour le filtre de l'église. Il est devenu populaire, un homme important, mais dans le séjour des morts, il a levé les yeux tandis qu'il était en proie au tourment. Maintenant, vous optez pour le filtre de l'homme qui réfléchit, Jésus-Christ, la parole, et vous désirez le goût d'une personne sainte parce que c'est ce qui satisfera. Et si vous avez le Saint-Esprit en vous, ceci le satisfera. Si le Saint-Esprit n'est pas là, vous dites, « Oh, eh bien, moi, je ne pense pas que ça change quelque chose. Regardez ce que vous avez fait juste là. » La même chose qu'Ève, vous vous retrouvez au même point. Maintenant, alors, allons un peu plus loin. Maintenant, considérons, laissons cet homme qui n'a pas utilisé le filtre de l'homme qui réfléchit. Il a refusé d'accepter la conduite de Jésus-Christ qui a mené à la vie éternelle. Maintenant, considérons un autre jeune homme d'affaires, riche, un chef, qui a eu la même occasion que cet homme. Et pour ce qui est d'accepter cela, il lui a accepté d'être sous la conduite de Christ. Maintenant, il y a deux dans la Bible dont nous allons parler. Il y a celui dont nous avons vu qui a refusé cela. Maintenant, considérez cet homme, un autre jeune homme d'affaires riche et un chef, et lui, il a accepté d'être sous cette conduite. Les Écritures nous parlent de cet homme, si vous voulez le noter dans ces Hébreux 11, 23 à 29. Moïse, par la foi, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité à cause de Dieu. Regardez l'opprobre de Christ comme des trésors plus grands que tous les trésors de l'Égypte. Vous voyez, il a accepté la vie éternelle. Moïse a regardé l'opprobre de Christ comme des trésors plus grands que tous les trésors que le monde avait. Moïse a regardé cela comme étant ce qu'il y a de plus grand. Par contre, cet homme riche-là, non. Et Moïse était un jeune chef riche. Il allait devenir pharaon. Il était le fils de pharaon. Il était héritier du trône. Il a considéré l'impossible, une bande de tripoteurs debout, une bande d'esclaves. Mais par la foi, il a vu la promesse de Dieu à travers la parole que son peuple séjournerait dans un pays étranger pendant 400 ans, mais qu'il sortirait par une main puissante. Il a regardé cela, alléluia, comme des richesses plus grandes que tous les trésors d'Égypte, car il a quitté Égypte sans savoir où il allait. Et il a été conduit par Christ. Il a quitté, il avait un pied sur le trône, et il aurait pu être le prochain pharaon en Égypte, mais il a regardé l'opprobre de Christ, l'opprobre d'être appelé ce gars bizarre, d'être appelé ce fanatique, de prendre sa place parmi les tripoteurs debout, et les fanatiques parce qu'il a vu que l'heure où l'Écriture promise devait s'accomplir, était maintenant arrivé. Oh, Église, réveillez-vous! Ne pouvez-vous pas voir la même chose ce soir? L'heure qui a été promise est sur vous, sur nous. Regardez l'opprobre de Jésus-Christ comme des richesses plus grandes que toute communion que vous pourriez avoir, même s'il faut renoncer à celle que d'un père ou d'une mère, d'une église ou de n'importe quoi d'autre. Suivez la conduite de l'Esprit. Suivons ce que Christ pendant Moïse pendant un petit moment. C'est ce que j'ai fait. Observez sa vie premièrement quand il a accepté de prendre sur lui l'opprobre de Christ et de renoncer à son instruction, de renoncer à sa sagesse. Il avait été instruit de toute la sagesse des Égyptiens et toute sa popularité, son trône, son sceptre, son royauté, sa couronne et tout ce qu'il y avait, il l'a rejeté. Cet autre homme, lui, il voulait avoir ces choses. Il a refusé Christ. Et cet homme que voici, il a refusé ces choses. Il a accepté Christ. Et rapidement, qu'est-ce qu'il a trouvé? Il a fallu qu'il se séparer. Alléluia! Ce mot, c'était louange à notre Dieu. Quel dommage que nous l'oublions. Il a rejeté les trônes de la popularité. Il aurait pu avoir des jeunes filles par des épouses par centaines. Il aurait pu recevoir des sceptres de l'Égypte, gouverner le monde. Il avait le monde à ses pieds. Il avait hérité de tout cela. Mais en regardant dans l'Écriture et en voyant le jour où il vivait, alors qu'il savait qu'il y avait quelque chose en lui, cette semence de Dieu prédestinée est entrée en action. Peu importe combien vous pouvez être populaire ou combien vous pouvez être telle chose, que vous soyez surveillant, que vous soyez pasteur, que vous soyez ceci, cela ou autre chose, mais c'est cette parole de vie éternelle est prédestinée en vous par la parole de Dieu, et que vous voyez que la chose est proche, elle entre en action, elle se met en mouvement comme ça, elle commence à se manifester, elle a commencé à saisir, et il a refusé d'être appelé fils et fille de Pharaon, parce qu'il a regardé le prophète de Christ comme des trésors plus grands que toutes les richesses de l'Égypte et du monde. Il a regardé cela, observé ce qu'il a fait, il a suivi cela, et voilà rapidement qu'il a expulsé de son peuple, du peuple qui autrefois l'avait aimé. Cela vous coûtera peut-être tout ce que vous avez, cela vous coûtera peut-être votre foyer, cela vous coûtera peut-être votre amitié, cela vous coûtera peut-être votre union de couture, cela vous coûtera peut-être votre position chez les Kiwani, peut-être que je ne sais pas ce que cela vous coûtera, mais cela vous coûtera tout ce qui est mondain, ce qui est rattaché au monde. Vous devez vous séparer de tout ce qui est mondain, vous devez le faire. Moïse a tout abandonné, il est parti dans le désert, un bateau à la main. Amen. Bien, des jours sont passés. Je me demande s'il a dit qu'il avait fait une erreur. Non. Souvent, les gens, au départ, ils disent, « Oh, je vais le faire. Gloire à Dieu. Je vois ce qu'il en est. » Il suffit que quelqu'un se moque de lui. Il le tourne en ridicule et probablement que je me suis trompé. Il a dit, « Ceux qui ne peuvent pas supporter le châtiment sont des enfants bâtards et non des enfants de Dieu. » Vous voyez, c'est l'émotion qui fait qu'ils s'emballent. Vous voyez, cette semence dont j'ai parlé il y a quelques instants, cet homme n'était pas là au départ. Il y a une onction de l'Esprit, ce qui lui a fait faire toutes ces sortes de choses. Oh, quand votre esprit est loin, vous pouvez, c'est le vrai authentique cet esprit, vous pourriez quand même être démon. Oh, vous dites, frère Branham, des faux prophètes, la Bible dit que dans les derniers jours, il y aurait des faux prophètes. Jésus a dit, il s'élèvera de faux Christ, pas de faux Jésus. Personne n'accepterait ça, mais des faux loin. Christ signifie ceux qui sont loin. Faussement loin, ils sont loin, mais tout au fond, ils sont faux. Et ils exécutent de grands signes et des prodiges. Ils parlent en langue, ils dansent par l'esprit, ils prêchent l'évangile. Judas Iscariote l'a fait. Caïphe a prophétisé. Balaam, l'hypocrite, bien sûr, il a exécuté tous les signes, toutes les pratiques religieuses. Mais vous voyez, si vous mettez une semence de gros tronc et une semence de blé dans la même couche, et que vous versez de l'eau, et les oignées, elles se résoudront tous, tous les deux. Elles pousseront toutes les deux grâce à elle, à la même eau. Le soleil brille sur les justes et sur les injustes, et la pluie tombe sur les justes et les injustes. Mais c'est leur fruit que vous les reconnaîtrez. Comment pouvez-vous faire autrement que de vous aligner sur la parole? Amen. Vous voyez ce que je veux dire? L'eau tombe sur les justes et les injustes. Elle est loin. Jésus a dit, ils viendront à moi en ce jour. Là, ils diront, Seigneur, Seigneur, je n'ai pas chassé des démons. N'ai-je pas prophétisé? N'ai-je pas fait de grandes choses par ton nom? Et il dira, vous qui commettez l'iniquité, retirez-vous de moi. Je ne vous connais même pas. Allez dans l'enfer éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Vous voyez? Quelle parole, faussement adorée en vain, lutter en vain. Pourquoi faites-vous ça alors que vous n'avez pas à le faire? Pourquoi accepter un substitut alors que les cieux sont remplis de l'authentique? Voyez, vous n'avez pas à faire ça. Il a dit, Moïse, ôte tes souliers, le sol sur lequel tu te tiens est saint. Car j'ai entendu les cris de mon peuple et j'ai entendu leur gémissement. Je me souviens de ma promesse et de la parole. Je descends, je vais t'envoyer là-bas pour les faire sortir. Certainement, il a rencontré Dieu face à face. Il a parlé avec lui. Il a été commissionné par Dieu. Voilà que Dieu a retenu cette même colonne de feu. Et il a confirmé ce prophète et il se tenait là, sur la montagne, pour prouver que c'était bien ça. Il a accompli par ses mains toutes sortes de miracles et tout. Et il y a eu les imitateurs, et bien sûr, il y a eu Jean-Bresse et Jeannès. Il était là, tout près, ils ont accompli la même chose qu'eux. Mais l'original, c'était qui, vous voyez? Où c'est qu'il avait commencé? Qu'est-ce que c'était? Venu de la parole? Et qu'est-ce que c'était? Est-ce que c'était là? Vous, les pentecôtistes qui êtes sortis de ces organisations il y a des années et qui les avez maudits, vos pères et vos mères, vous avez fait votre faste pour retourner faire la même chose qu'elles. Et voilà maintenant que c'est la même bourbier, le même vomissement. Voyez, et c'est ce qui a fait vomir l'Église au début de l'âge. Pentecôtistes, c'est ce qui le fera vomir de nouveau aujourd'hui, voyez. Mais il faut que ça arrive. C'est la balle. Il faut que ça vienne. Il ne peut pas y avoir de l'aigrette. La balle doit venir. Vous voyez le porteur maintenant. Nous vivons dans les derniers jours. Observez les choses qui sont promises pour cette heure. Observez ce Moïse confirme. Sachez-le. Quand il est allé là-bas, certainement, c'est... propres frères se sont retournés contre lui. Ils voulaient former une organisation. Ils ont dit, tu agis comme si tu étais le seul saint parmi nous. Toute l'assemblée est sainte. On dit, Coré et Dathan, choisissons des hommes et faisons quelque chose. Moïse, j'ai été désolé pour lui. Il s'est prosterné. Il a dit, Seigneur, il s'est prosterné devant l'autel. Il a dit, Seigneur, Dieu a dit, c'est par toi deux. J'en ai assez. Il a simplement ouvert la terre et les engloutit, c'est tout, vous voyez. Il connaissait sa commission. Dieu ne traite pas avec des organisations, il ne traite pas avec des groupes. Il traite avec des individus, c'est vrai, toujours. Pendant des groupes, des individus, une seule personne, dans les derniers jours, il a dit, je me tiens à la porte et je frappe. Et si seulement, pas si un groupe, si quelqu'un entend ma voix et qu'il m'écoute, j'entrerai chez lui, je souperai avec. Vous voyez? Si quelqu'un peut entendre, comment est-ce que ce microphone pourrait reproduire ma voix et là-bas, à moins d'avoir été conçu pour ça, je pourrais crier contre cette plante de toutes mes forces. Rien ne se passerait parce que ceci, ça a été destiné à fabriquer, créé pour être un microphone. Et si la parole de Dieu est en vous par la prédestination de Dieu, en vous, mes brebis entendront ma voix, elles connaissent mon nom, elles ne suivront pas un étranger. Voyez, il faut qu'il y ait ça. En premier, tous ceux que le Père m'a donnés viendront, chacun d'eux, vous voyez. Et nous allons terminer là parce qu'il se fait tard, 21h35. Remarquez, chez nous, par contre, ça, c'est tôt. Vers 2 ou 3 heures, nous commencerons à dire, dites donc, il se fait un petit peu tard, voyez, mais bon, il m'est arrivé bien des soirs de prêcher toute la nuit. De son temps, Paul a prêché ce même évangile, et un jeune homme est tombé d'un mur et s'est tué, et Paul, par Cette même onction est par ce même évangile, s'est couché sur lui et est revenu à la vie. Il avait un vif intérêt. L'Église était en train de se former. Il se passait quelque chose. Remarquez ce qui est passé Moïse, qui en était, quand il est arrivé, cet homme riche, quand il est arrivé, le jeune chef dont nous avons parlé, il était tout ce qu'il y a de plus religieux. Il avait fait partie de l'Église et tout. Bien instruit, un bon homme d'affaires et tout. Et quand il est arrivé au bout du chemin, il s'est mis à crier, il n'y a pas d'endroit où vous allez. Où se trouvait ce qui l'avait conduit. Il avait été conduit par son Église, qui est morte. Il avait été conduit par ce monde mort. Il ne pouvait plus aller nulle part, ailleurs que dans le lieu que ce monde avait préparé l'enfer. Mais voici Moïse, un serviteur fidèle qui avait regardé l'opprobre de Christ comme des trésors plus grands que toutes les richesses de l'Église. Et il est arrivé au bout du chemin, lui, un vieillard de 120 ans. Il est monté sur la montagne en sachant que la mort était devant lui. Il a promené ses regards sur le pays promis. Il a regardé sur le côté et se trouvait son conducteur, le rocher. Il est monté sur le rocher et les anges de Dieu l'ont apporté dans la gloire de Dieu, dans la sainte du Dieu. Pourquoi 800 ans plus tard, il était toujours conduit par son conducteur? Nous le retrouvons sur la montagne de la transfiguration des Boulins, avec Élie en train de parler à Jésus avant qu'il ait à la croix 800 ans après sa mort, celui qui avait regardé l'opprobre de son ministère comme des trésors plus grands que toute la popularité du monde et tout l'argent du monde. Son conducteur le conduisait toujours. Oh là là, il a été conduit, son conducteur. Il a conduit à travers la mort, les ombres de la mort. Il a conduit à la tombe. Des centaines d'années plus tard, il s'est tenu de nouveau là parce que jeune, il avait choisi la conduite du Saint-Esprit, son nom sera grand, quand il n'y aura plus ni Égypte ni trésor, quand les pyramides seront poussière et que l'Égypte ne sera plus l'Égypte. Moïse sera immortel parmi les hommes parce qu'il avait accepté d'être conduit par Christ plutôt que de suivre la voie de son Église, que l'Église suivait. Dieu savait vérifier ça. Il a dit, ce n'est pas nécessaire que tu meurs. Monte donc à la maison et cet après-midi, il est monté et Élie, après avoir réprimandé les femmes aux cheveux coupés et tout, comme il l'avait fait à son époque, et lui, et là, Jézabel peinture lurée, après qu'il eut assez et qu'il avait fait tout ce qu'il pouvait, et tous ses prêtres qui se moquaient de lui, et tout le reste, un jour, il est descendu au fleuve, et juste de l'autre côté du fleuve, il y avait des chevaux attachés là, un buisson, un char de feu, et des chevaux de feu. Il est monté là-dessus, il a jeté son manteau au prophète qui allait lui succéder, il est monté au ciel. Il a accepté d'être conduit par la vie éternelle parce que c'était Christ qui était en Élie. Oh oui, monsieur, qu'est-ce que c'était? Suis-moi maintenant. Vous devez choisir votre conducteur, vous devez le choisir. Mes amis, regardez dans le miroir de Dieu, la Bible, et voyez où vous en êtes ce soir. Il y avait une fois un petit garçon qui habitait à la campagne. Il n'avait jamais vu un miroir. Il était venu à la ville pour rendre visite à la sœur de sa mère. Et elle avait une maison, les anciennes maisons avaient autrefois un miroir sur la porte. Et je ne sais pas si vous vous souvenez de ça ou pas, mais ce petit garçon, il n'avait jamais vu de miroir. Alors, jouant dans la maison, il a regardé il a regardé ce petit garçon, il a fait bouger la main, et le petit garçon a fait bouger la main, le petit garçon s'est tiré l'oreille, et ainsi de suite, comme ça. Et il s'approchait de plus en plus, et puis il s'est retourné, il a dit, « Maman, c'est moi, vous. » Vous rassemblez à quoi, vous? Qui est-ce que vous suivez? Qu'est-ce que nous avons fait? Vous devez choisir votre conducteur, choisissez aujourd'hui, choisissez la vie ou la mort. Votre choix déterminera votre destination éternelle, ce que vous choisiriez. Souvenez-vous, Jésus a dit, suivez-moi, et ce que ce soir, vous êtes invité à le faire, et pour le suivre vers la vie éternelle, vous devez accepter ses conditions à lui. C'est vrai, la parole, pas sur la base du credo, pas sur la base de l'opinion publique, pas sur la base de ce que quelqu'un d'autre en pense, mais sur la base de ce que Dieu en a dit. Ce qu'ils ont fait, je n'y peux rien, la parole de Dieu. Il a dit que toute parole d'homme soit reconnue pour mensonge et que la mienne soit, soit reconnu pour vérité. Vous devez accepter ses conditions à lui. Vous pliez à ses conditions. La parole, vous ne pouvez pas venir au moyen d'un credo. Vous ne pouvez pas venir au moyen d'une dénomination. Vous ne pouvez pas le mélanger comme ça. Il n'y a qu'une seule chose que vous pouvez faire, l'accepter sur la base de ses conditions à lui, en étant prêt à mourir à vous-même et à toutes vos pensées, à le suivre, débarrasser. Débarrasse-toi de toutes ces choses du monde et suis-moi. Je sais que c'est un message sévère et tranchant, frère, mais je ne suis pas venu ici. Je n'ai pas choisi un message. Les gens, rien que pour essayer de les faire chanter, jubiler, crier, je me suis trouvé dans les réunions païennes où ils ont fait la même chose. Je m'intéresse à votre vie. Je suis un serviteur de Dieu qui doit rendre compte à Dieu un jour et le ministère que le Seigneur m'a donné, c'est confirmer lui-même des milliers de fois devant nous. Souvenez-vous, Jésus a dit, suis-moi, débarrasse-toi de ce que tu as, et suis-moi, c'est le seul moyen d'avoir la vie éternelle, c'est le seul remède qu'il a donné. Inclinons la tête. Je vais vous poser une question. Et je veux que vous soyez vraiment sincères. Je voudrais que la sœur joue ceci pour moi. La voix du Seigneur m'appelle. Je sais que c'est un appel à l'autel à la manière d'autrefois. Et frères, sœurs, comme nous le voyons, vous n'avez qu'à regarder ce qui se passe aujourd'hui. Maintenant, pendant que vous avez la tête inclinée, réfléchissez pendant un instant, regardez ce qui est en train d'arriver. Avez-vous le journal la semaine dernière et ce que cet homme en Angleterre a dit, que la crucifixion de Jésus-Christ n'était qu'un coup monté qui avait été tout simplement été arrangé devant avant, entre Pilate et lui. Avez-vous ce que ce théologien américain a dit? Il a dit que Jésus a simplement été endormi avec de la mandragore. Beaucoup d'entre vous, les théologiens, saviez que cela, dans la Genèse, il est parlé de la mandragore. Cette plante vous endort et vous rend comme mort. Votre cœur bat à peine pendant une période de 2 à 3 jours. Et quand ils l'ont donné le vinaigre et le fiel, ils ont dit que c'était de la mandragore. Puis ils l'ont mis là-dedans, dans la tombe, et ils ont il a dormi pendant 3 jours. Et bien sûr, quand ils ont allé, ils l'ont trouvé en train de marcher. Pouvez-vous imaginer ça? Des théologiens, des cimetières, un semblant de foi. Mais voyons comment. Et une autre chose, et s'il est ainsi, alors pourquoi ces disciples qui seraient venus là les dérober, pourquoi ont-ils donné leur vie en martyr pour lui? Et ils sont descendus, ils ne se trouvaient même pas digne de mourir comme lui était mort. Et on les a placés la tête en bas et on a mis transversalement sur des croix et à des choses comme ça. S'ils étaient, savaient qu'ils étaient un hypocrite et qu'eux-mêmes étaient des hypocrites, comment auraient-ils pu donner leur vie pour lui? Comme ça, oh, vous voyez, c'est ce que ce jeu intellectuel où nous vivons, l'instruction, la civilisation et les tendances modernes aujourd'hui, tout ça, c'est du diable, la civilisation du diable. Oui, monsieur, la Bible l'a dit. Dans cette civilisation, il y a la mort. Aurons-nous une civilisation comme celle-ci dans d'autres mondes, dans l'autre monde? Non, monsieur, nous aurons une autre genre de civilisation, l'instruction. Toutes ces choses, elles sont du diable, la science qui pervertit les choses naturelles en fabriquant quelque chose d'autre. Regardez ce qu'ils vous ont fait maintenant, alors que des jeunes filles, le Reader Digest disait que des jeunes hommes et des jeunes femmes arrivaient à l'âge mûr et des femmes ont leur ménopause et qu'elles sont entre 20 et 25 ans, une génération de plus, ils ne seront plus que, ce sera horrible à voir, voyez, ce que les créatures seraient, ramollies, crâneuses. Chasseuse, regardez, je regarde l'esprit pendant que nous ayons la tête inclinée, les yeux fermés, et s'il vous plaît, inclinez votre cœur en même temps. D'accord, je veux que vous posiez une question. Est-ce que vous vous regardez vraiment par rapport à Dieu? Est-ce que vous vous considérez que vous n'êtes pas là où vous devriez être à cette heure-ci, parce que l'enlèvement pourrait avoir lieu à tout moment. Vous voyez, il va avoir lieu, il n'y aura si la déclaration que j'ai faite il y a quelques instants est valable, il n'y aura dans l'enlèvement qu'environ 500 personnes actuellement vivantes qui seront changées, en effet. Si on compte toutes les chrétiennes, incluant les catholiques et tous les autres, il y a 500 millions de gens, vous voyez, qui se prétendent chrétiennes. Et 1 sur 1 million, ça se fera 500 personnes. Personne. Il y a autant de gens qui disparaissent chaque jour dans le monde et qu'un ne trouve même pas. Vous voyez, il aura lieu. Vous ne le saurez même pas, les gens qu'on sera pressés. Il a dit, vous voyez, tout sera passé. Comme Jésus l'a dit, ils ont dit, les disciples ont dit, pourquoi dis-tu que les scribes disaient qu'Élie devait venir premièrement? Il a dit, il est déjà venu, vous ne l'avez pas reconnu, mais qu'ils l'ont traité comme il l'avait dit. Vous savez que vous n'êtes pas en règle avec Dieu et vous aimeriez qu'on pense à vous devant Dieu afin que Dieu rectifie dans votre cœur ce qui n'est pas en règle avec Dieu. Voulez-vous maintenant, en toute humilité, en ce moment de grande tranquillité, lever les mains, peu importe qui vous êtes, voulez-vous le faire? Vous dites, je vais lever la main vers Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous regardez dans le miroir? Je vous le demande au nom de Jésus-Christ. Est-ce que vous regardez le miroir de Dieu?
Wilt thou judge thyself, or if thou shalt judge thyself, the Lord will not judge thee nor condemn thee. Behold, the Lord hath called thee to a high and holy calling. Yea, and even now doth the Lord brood over thee in love and in mercy. Yea, if thou shalt confess thy sin, yea, the Lord shall cleanse thee and forgive thee, and he shall cause thee to mount up with wings as eagles, and thou shalt be filled with his power, and he shall wash thee by the water of his word. He shall renew thee, he shall change thy heart, and give thee a heart of flesh. For behold, the day of the Lord is at hand. Wilt thou even, as the old world, who paid no attention to my preacher Noah, who went about unconcerned and complacent, who dishonored God, yea, and insulted the Holy Spirit. What about in everyday life? As though the Lord did not what he said and what he would do. For behold, the word of the Lord overtook them, and behold, they all perished. Therefore I say unto thee, this is an evil hour. This is an evil day, and thou shalt not be deceived, if thou shalt be led by my Spirit and conformed to my word. For behold, I shall keep thee and preserve thee, and I shall keep thee true, and I shall revive thee unto the day of my coming.
Amen. Je vais demander une chose.
Combien ici sont pentecôtistes? Levez la main. Ceux qui sont pentecôtistes, pratiquement chacun de vous. Maintenant, combien ici prétendent être chrétiens? Levez les mains. Où que vous soyez, ceux qui prétendent être chrétiens, saviez-vous que la Bible a parlé de ceci, que ceci se produira? Ceci s'est même produit dans l'Ancien Testament. Ils se demandaient ce qu'ils allaient faire, comment ils allaient pouvoir s'échapper. Quand on allait bientôt les assiéger, l'Esprit est descendu sur un homme et il a prophétisé, il leur a dit où affronter l'ennemi, a commencé à procéder, et quoi faire pour vaincre l'ennemi, ça. C'était dans l'Ancien Testament. C'est pareil de nouveau maintenant. Quelqu'un va peut-être dire, cet homme, ce n'était pas vrai, mais si c'était vrai, vous dites, oh, j'ai entendu ça, mais si, effectivement, ceci est bien vrai, vous voyez, alors c'est la preuve qu'il y a beaucoup de personnes ici qui ont besoin d'un changement de cœur, si c'est bien le Saint-Esprit qui parle, certaines choses doivent être faites, donc maintenant, c'est entre votre main. Tel que je suis, sans rien garder, sans rien à moi. Sinon ton sang versé pour moi et ta voix. C'est ça, il vous appelle tout à l'heure. À toi, Agneau de Dieu. J'ôterai ce cœur endurci et je mettrai un cœur de chair prêt à s'abandonner à moi. Voyez? Bien. Tel que je suis, tu m'accueilleras. Voulez-vous faire votre choix ce soir? Vous pouvez faire celui que vous voulez. Purifiera. Vous dites, j'ai déjà entendu ça, mais ceci pourrait être la dernière fois que vous l'entendez. Que ta promesse, la croix, Les appels à l'autel à l'ancienne mode sont démodés aujourd'hui, mais Dieu continue à se manifester à travers eux. Ne pouvez-vous pas le sentir qui agit sur vous, Église? Oh, pensez-y aujourd'hui. Les cœurs deviennent de pierre, remplis du monde, indifférents. Les membres d'Église tiennent comme ce jeune homme riche. Et ils ne savent pas que le glorieux Saint-Esprit se tient là et qu'il frappe à la porte à cet âge de la Odyssée. Celui qui entendra ma voix, la parole, et qui ouvrira son cœur. J'entrerai chez lui et je souperai avec lui. Et l'Esprit qui a parlé à travers ce frère il y a quelques minutes a dit, j'ôterai de vous ce cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair tendre à l'égard de Dieu. Regardez comment c'est devenu maintenant, juste une émotion intellectuelle, voyez. Pas un cœur tendre rempli d'amour et de douceur à l'égard de Christ. Ne voulez-vous pas avoir ce genre de cœur-là? Comment allez-vous vous présenter devant Christ en ayant une conception intellectuelle de lui? Vous devez accepter la vie éternelle. Les préparatifs ont été faits grâce au sang. Et ta voix qui... Qu'a-t-il fait? Verser son sang et maintenant il vous appelle. Viens à toi, agneau de Dieu, je viens. Je Chacun de nous, chrétiens, levons doucement les mains et prions. Ô Dieu, je t'en prie, Seigneur, empare-toi de ce jour où nous vivons. Oh, c'est tellement difficile, Père. Satan a tellement de choses aux gens. Leurs cœurs sont devenus de pierre. Ton esprit parle ouvertement. Ta parole est présentée, confirmée, mais l'expérience de la nouvelle naissance à l'ancienne mode, c'est devenu une conception intellectuelle dénominationnelle. Beaucoup de musique, beaucoup de cris, beaucoup d'excitation. Mais en réalité, ce cœur de chair, cet esprit, cette vie éternelle, tout cela est devenu complètement étranger à l'Église. Ô Dieu, moi-même, ça me brise le cœur, moi-même, qui suis un pécheur sauvé par ta grâce. Ça m'a fait tant de peine, Père, de voir l'Église pour laquelle tu es mort, l'Église que tu essaies de racheter. Je pense à la vision que tu viens de donner à cette Église des États-Unis et d'autres pays, comme ce strip-teaser rock'n'roll était horrible à voir. Mais là, quelque part, j'en ai vu un autre qui s'avançait, il était béni. Je prie, Père, si certains ici ce soir sont destinés à la vie ou aimeraient l'accepter, que cette heure soit celle où ils le feront. Accorde-le, Seigneur. Brise maintenant le cœur de pierre, le vieux cœur du monde. Et s'ils désirent la paix, s'ils désirent quelque chose qui satisfait, quelque chose qui donne de l'assurance, puissent-ils accepter ce soir d'être conduits par Christ qui le conduira vers une paix qui surpasse toute intelligence, une joie ineffable et glorieuse, ou même quelque chose auquel la mort elle-même ne peut pas faire de mal. Accorde-le, Père, maintenant, pendant que nous avons la main levée. Et je me demande si combien de personnes dans la salle maintenant voudraient simplement dire, je vais me lever. Maintenant, peut-être n'importe qui est assis à côté de vous, c'est Dieu qui vous parle et vous voulez vraiment être un vrai chrétien. Voyez, tout à moins que ce soit une imitation. Oh, alors, je préférerais simplement sortir et être dans le monde. Je crois que vous aussi. Maintenant, examinez-vous simplement par la parole, par le message. Examinez ce que devait être un vrai chrétien, robuste, rempli d'amour, par un spécimen de ce christianisme moderne. Celui-là, il est mou, élastique, à moitié mort, pourri, hybridé. Vous voyez, ce n'est pas le vrai christianisme. Vivez n'importe comment, tout en étant membre de l'Église. Ne voulez-vous pas cette douce communion avec Christ, le Saint-Esprit? Ou vous, que votre propre cœur soit conforme à la parole et que vous avanciez en Christ, si c'est ce que vous voulez, que vous désiriez que Dieu voie votre proposition ce soir de ce groupe, si vous voulez bien le faire, vous dites, est-ce que ça a de l'importance, ça fera un homme? Oh oui, bien sûr que oui. Si vous avez honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de vous devant mon Père et les Saint-Anges. Et celui qui me confessera et qui prendra position pour moi dans ce pays-ci, je prendrai position pour lui dans ce pays-là. Je le confesserai devant mon Père. Maintenant, peu importe qui vous êtes, femme, homme, garçon, fille, ou qui que vous soyez, chrétien ou pas chrétien, ministre, diacre, qui que vous soyez, si vous voulez simplement croire que tout votre cœur, juste un instant, et faire ceci ce soir, juste pour indiquer à Dieu que vous êtes sincère. Oh Dieu, mais écoutez-moi, je suis pas cotiste, vous dites je suis ceci, ou quoi que vous soyez là, je professe danser par l'esprit. Mais frère Branham, moi je pense que pourvu que nous ayons ça, nous l'avions, non, vous ne l'avez pas. Si vous croyez que je suis le prophète de Dieu, écoutez mes paroles, voyez. C'est une tromperie de ce jour-ci. La Bible là, n'a-t-elle pas dit que ce serait tellement proche que ça s'est dû réaliser si c'était possible? Les élus jusque dans l'âme. Oui, les deux sortes, vous voyez, je peux manifester toutes les émotions, je peux avoir la foi, je peux prêcher l'Évangile, je peux donner tous mes biens pour nourrir les pauvres, je peux porter la parole sur les champs de mission à travers, je ne suis toujours rien, vous voyez, c'est cet intérieur de l'intérieur, frère. Votre esprit se décompose quand vous mourrez. Il s'envole, mais votre âme revit. Maintenant, regardez-vous. Vraiment, êtes-vous un véritable chrétien selon la Bible, rempli de l'amour de Dieu? Souvenez-vous, la Bible a dit dans les derniers jours où ce temps serait là, il a dit un ange qui faisait une marque est passé dans les églises, est passé dans les villes et a scellé seulement ceux qui soupiraient et ceux qui gémissaient à cause de l'abomination qui se commettait dans la ville. Pas vrai, Ecclésiaste 9, nous savons que c'est la vérité, l'ange qui faisait une marque. C'est avancé, il a fait une marque sur leur tête, sur leur front, il a scellé ceux qui soupiraient et qui gémissaient. Après cela, les anges de Tristan sont venus des quatre coins de la terre. Et ce qui va arriver incessamment, nous voyons que c'est en route, les guerres se préparent et qui tueront complètement tout ce qu'il y a sur la terre. Ils pouvaient toucher à tout sauf à ceux qui avaient la marque. Maintenant, est-ce que pourriez-vous simplement vous lever et dire, Dieu bien-aimé, je me lève pas parce que Frère Branham l'a dit, mais j'ai entendu la parole dire ces choses et je vais faire ceci pour toi, Seigneur, je me lève. J'ai un besoin, Seigneur, voudrais-tu subvenir à mon besoin ce soir ici à cet endroit? Je me lève, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. J'ai un besoin, je voudrais que tu sois miséricordieuse envers moi. Que Dieu vous bénisse. Je veux être le genre de chrétien. Maintenant, souvenez-vous, la parole qui est debout à côté de vous est dans la même situation que vous. Vous êtes ce que vous tentiez simplement le bras et que vous leur preniez la main en disant, frère, sœur, maintenant, priez pour moi. Je veux que vous priez pour moi. Et dites-le simplement avec toute la sincérité chrétienne, priez pour moi. Je vous ai en règle avec Dieu, priez pour moi. Et moi, je prierai que Dieu vous accorde cette possibilité. Et je sais que nous ne pouvons pas rester ici encore longtemps, vous le voyez. Nous sommes au temps de la fin que tous ceux qui croient disent Amen. Il ne reste plus rien, tout est fichu. Les églises se dirigent vers le conseil ecuménique, le monde. Regardez un peu, savez-vous ce que le Seigneur a dit à propos de Los Angeles et de cet endroit-ci? Elle est fichue. Vous souvenez-vous de ce que j'ai dit il y a environ 2 ans à propos de ce tremblement de terre qui viendrait au Canada, là-haut, en Alaska? Je vous dis aussi que Hollywood et Los Angeles sont en train de glisser dans l'océan. La Californie, tout est condamné, pas seulement la Californie, mais toi, monde, tu es condamné, église, à moins que tu ne te mettes en règle avec Dieu, tu es condamné. Ça fait 20 ans que vous connaissez, vous ai-je dit déjà dit quelque chose au nom du Seigneur qui ne soit pas accompli si tout ce que je vous ai dit qui est arrivé, dites Amen. Je vous le dis, maintenant prions chacun pour les autres. Dieu bien-aimé, alors que nous sommes debout ici ce soir, un peuple qui se meurt, nos visages sont tournés vers la terre, la poussière, simplement nous. Tu nous as donné cette prédication tranchante, Seigneur. Nous voyons l'exemple de deux hommes. L'un d'eux était un homme religieux, allait à l'église, mais il a refusé d'être conduit à la vie éternelle, et l'autre a rejeté la gloire du monde. Et il s'est tourné vers la vie éternelle. Et nous voyons dans quelle situation l'un et l'autre ce soir, selon la Bible, l'homme riche est dans les tourments et Moïse dans la gloire. Père, nous voulons être comme Moïse, nous voulons être conduits par ton Fils Jésus-Christ vers la vie éternelle. Donne-le Le nouveau cœur ce soir, Seigneur, arrache-le. Vieux cœur de pierre, place en nous le nouveau cœur. Le cœur de chair, le cœur auquel tu peux parler, avec lequel tu peux traiter. Et nous ne serons pas ôtés ou en contradiction. Puisse le Saint-Esprit ne jamais partir. Seigneur, puisse-t-il venir et établir ces gens. Parle-leur, brise leur volonté de pierre, de même et même en eux la volonté de Dieu. Sauve chacun. Pardonne-nous de ton amour. Ramène-nous à un point, Seigneur, où nous nous éloignerons de toute la partie émotionnelle pour prendre la partie vraiment solide du sentiment, la partie ressentie par le cœur, la profondeur de l'esprit, la richesse de Dieu, le royaume de l'esprit donne nos cœurs. Accorde-le au grand conducteur glorieux Saint-Esprit avant ton envol dans les cieux avec ton esprit. Oh Dieu, fais que je parte, Seigneur. Ne me laisse pas derrière, Jésus. Fais que je parte avec toi, Père. Je ne veux pas rester ici sur cette terre pour regarder cette tribulation qui arrive. Je ne veux pas rester ici au milieu de cette démence. Je ne veux pas être ici quand on verra ces choses. Les gens qui perdront leur raison. Nous voyons des hommes qui cherchent à agir comme ces bêtes et à ressembler à des bêtes. Et les femmes qui cherchent à ressembler à des animaux avec des produits de maquillage sur le visage. Nous savons qu'il a été prédit que ces choses arriveraient, que la chose arriverait, qu'ils deviendront tellement fous que des sauterelles rappelleront avec des cheveux comme avec celles des femmes. Nous tourmenter les femmes et des dents comme celles des lions et des choses que tu as dites. Il y aura une détérioration complète de la faculté mentale des hommes. Nous voyons que ça se prépare et en ce moment, Seigneur, aide-nous la pensée sensée de Jésus-Christ, notre Seigneur, au grand conducteur de la vie éternelle. Nous acceptons ta promesse ce soir, Père. J'intercède pour ces gens. J'intercède pour chacun d'eux. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, je prie pour Christ, le Fils de Dieu, vienne dans le cœur de chacun de nous, Seigneur, et qu'il nous accorde de façon et face de nous, de nouvelles créatures de Jésus-Christ, accorde-le, Seigneur Dieu. Nous t'aimons et nous voulons que notre tempérament, qu'un changement intervienne en nous pour que nous ne puissions être des enfants et sentir ton esprit agir dans nos cœurs, Seigneur. Nous attendrez et nous amener à reconnaître dans quel âge de démence nous vivons. Accorde-le, oh Dieu, quand nous voyons ces jeunes femmes tellement prises dans les toiles du diable, des jeunes hommes avec un esprit perverti, des enfants toxicomanes, ils fument la cigarette, ils boivent, ils sont immoraux, l'Éden de Satan. Oh Dieu, il a fallu 6000 ans, selon la Bible, pour construire un Éden. As-tu Il a placé ton fils et sa femme, son épouse, afin qu'il règne sur celui-ci. Satan est venu et l'a pervertu il y a 6000 ans. Il a construit son propre Éden intellectuel au moyen de la science. Il a l'instruction et une soi-disant intelligence et il en a fait un gâchis. C'est la mort. Oh Dieu, ramène-nous en Éden, Seigneur, là où il n'y a pas de mort, il n'y a pas de chagrin. Accorde-le, Seigneur. Nous sommes là humblement. Nous attendons que la seconde Adam vienne chercher son épouse. Fais de nous une partie de lui. Père, nous prions au nom de Jésus. Amen. Est-ce que vous aimez Dieu? Pouvez-vous sentir? Est-ce que vous comprenez ce que j'essaie de vous dire? Si vous pouvez le comprendre, levez la main. Dites, je comprends ce que vous essayez de dire. Pouvez-vous voir la démence de cet archi? Regardez, il est fichu. Il n'y a même plus de bon sens parmi les gens. C'est fichu. Où sont passés même les dirigeants? Regardez notre président. S'ils veulent le communisme, qu'on leur donne ça. Tout ce que les gens veulent, qu'on leur donne. On sent passer notre Saint-Patrick, notre George Washington. Ils sont passés nos dirigeants capables de défendre un principe. Nous n'en avons plus. Où sont passés nos églises, nos ministres? Où sont? On fait entrer les gens ou les prennent simplement l'essai ou bien ils deviendront membres de l'Église et feront ceci. Ils auront une petite sensation ou quelque chose comme ça. Où sont passés ces hommes de Dieu, ces prophètes qui prennent position et qui osent défier toutes les choses du monde? Ils sont passés ces hommes intègres. Où se trouvent-ils? Ils sont tellement ramollis et à cause des conceptions intellectuelles et au point qu'ils se sont plus suicidés. Oh Dieu, aie pitié de nous. Oh Dieu, c'est ma prière. Oh Dieu, fait que nous soyons là-bas, c'est la prière que j'adresse à ce grand être surnaturel qui est dans cette salle de ce soir, le glorieux Christ qui détient le jour, toujours la vie éternelle. Je te prie, oh Dieu, Christ, alors que je suis ici, les yeux ouverts, en train de regarder l'Église, et que tu es rajouté par ton sang. Oh Dieu, ne permets pas qu'une seule d'entre eux soit perdue. Nous voulons être en règle avec toi, alors purifie-nous, ô Seigneur, de toutes nos iniquités, entre nos péchés et ces choses. Accorde-le, Père, je remets tout entre tes mains, au nom de Jésus-Christ. Jusqu'à ce que nous nous revoyons. Réunis au pied de Jésus, jusqu'à ce que, regardez vers lui, laissez-le nous attendrir. Dieu soit avec vous jusqu'à ce jour. Levons les mains maintenant jusqu'à ce que nous soyons réunis. Face à l'anneau, je ne sais pas qui vient ensuite. Donc, Dieu vous bénisse. Jusqu'à ce que nous soyons réunis. Dieu soit avec nous jusqu'à ce que nous rencontrons à nouveau. Jusqu'à ce que nous nous rencontrerions à nouveau. Dieu, sois avec nous jusqu'à ce que nous rencontrerions à nouveau. Pensez à ça. Oh Dieu, sois avec nous jusqu'à ce que nous rencontrerions à nouveau. Que la manne vous nous pourvoie à vos besoins chaque jour. Dieu, sois avec nous jusqu'à ce que nous rencontrions à nouveau. Soit avec vous jusqu'à ce que nous rencontrerions à nous. Le verset 1. Et Dieu, sois avec vous jusqu'à ce que nous rencontrerions à nouveau.
By his counsels, God uphold you. with his sheep securely fold.
Avec ses brebis sécuritairement placées. Que Dieu soit avec vous jusqu'à ce qu'on se rencontre à nouveau. Jusqu'à ce que nous nous rencontrons aux pieds de Jésus. Soit avec vous jusqu'à ce que nous rencontrons à
nouveau.
Oh, que Dieu soit avec vous jusqu'à ce que nous rencontrons sous ses ailes. Caché sous ses ailes sécuritairement. Et la manne qui est pourvue chaque jour pour vous. Inclinez la tête, s'il vous plaît. Tendre Père Céleste, c'est un honneur de nous tenir en face de la portion de l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Quel honneur d'entendre ta parole. Seigneur, ta conduite. Nous avons besoin de cela dans notre vie, dans ces jours. Nous avons entendu le prophète de Dieu parler de ces choses. Nous vivons maintenant les religions du monde, mais tu appelles des individus. Tu les as conduits à ta parole, Père. Et c'est à quoi nous regardons cet après-midi? À toi, au prophète Malachi 4 que tu as appelé. Tu as parlé la parole à travers lui, et nous recevons cette parole. Seigneur, nous t'aimons pour cela. Et Seigneur, nous ne pouvons pas attendre pour ce jour où nous allons te rencontrer, être rassemblés à nouveau, et entendre le prophète dire, « Voici l'agneau de Dieu. » Seigneur, nous te remercions pour ce prophète. Merci pour lui qu'il soit parti, qu'il soit allé avant nous. C'est notre conducteur. Et il t'a pointé fidèlement. Et nous. Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui, éternellement. Seigneur, sans toi, où serions-nous dans ce monde? Il n'y a rien d'autre que toi, Père. Rien d'autre que ta parole. Et nous voulons seulement demander que ton Saint-Esprit qui est présent cet après-midi, nous regardons vers toi. Nous te remercions, Père. Nous te remercions pour Frère Joseph d'avoir pourvu de cette conduite de nous ramener à ta parole. Il nous pointe au prophète et le prophète nous pointe à toi. Le message de l'heure et nous t'aimons.
Nous aimons chaque personne ici qui est un représentatif, qui est ici, à travers le monde. Sois seulement avec eux. Père, nous passons à travers beaucoup d'épreuves et de tentations. Nous ne pouvons pas le faire nous-mêmes. Nous avons besoin de ton aide. Et nous regardons à ta conduite. Ce n'est pas à travers le gouvernement ou les organisations, mais les hommes, mais c'est à travers Jésus-Christ. Nous t'aimons simplement, Seigneur. Nous te remercions pour ce message. Nous te remercions pour ta conduite. Tu es suffisant pour nous. Et tu as parlé à nos cœurs cet après-midi. Et continue à nous bénir cette semaine alors que nous allons aller à nos maisons, à notre travail. Sois avec nous. Et je prie que tu sois avec Frère Joseph alors qu'il est à l'arrière du désert et que tu puisses lui parler et répondre à ses questions qu'il a. Il t'aime, Seigneur, de tout son cœur. Il aime ces gens, cette congrégation, l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus, peu importe ce que tu as pour nous, nous sommes reconnaissants pour ta grâce et nous ne voulons pas oublier ce jour au calvaire car tu nous as aimés. Tu as pris nos péchés pour nous donner la vie éternelle. Père, c'est à quoi nous regardons, à la vie éternelle qui peut être seulement obtenue en te suivant. Aide-nous, Seigneur, à demeurer en prière. Et merci pour ce temps que nous avons passé ensemble. Et nous prions, et sois avec nous, et pour ceux qui sont ici, qui ne connaissent pas, qu'ils puissent te trouver aujourd'hui, cet après-midi. C'est cette vie éternelle, qu'ils puissent te trouver, nous prions. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, nous demandons. Amen. Jusqu'à ce que nous rencontrons au pied de Jésus. Dieu soit avec vous jusqu'à ce que nous nous rencontrons à nouveau. Chantons-le encore doucement alors que nous quittons. Que le Seigneur vous bénisse chacun d'entre vous. Paix à chacun de vous.